18h-20h, François Clos sur Europe 1.
Allez, Philippe Vandel, on va vous dire où il est. Il est du côté du Castellet où se déroule un Grand Prix de Formule 1. C'est sa passion et la Formule 1, on y reviendra tout à l'heure avec une interview étonnante. L'un des doyens des pilotes français, Jean-Pierre Jabouille, 76 ans. Figurez-vous qu'il va remonter tout à l'heure dans une Formule 1, la voiture Renault avec laquelle il avait gagné le Grand Prix de France il y a 40 ans, presque jour pour jour. Nous allons également parler de ces menaces autour de l'Iran et des États-Unis. Que se passe-t-il réellement? Donald Trump nous a fait revivre à coups de tweets une nuit de géopolitique absolument hallucinante. Oui, je vais frapper. Non, finalement, je ne vais pas frapper. Que se passe-t-il réellement entre l'Iran et les États-Unis? On va tenter de répondre à cette question. On va revenir également tout à l'heure sur ce rapport qui, à défaut de faire l'effet d'un pétard, a fait l'effet d'une bombe cette semaine. Deux économistes disent oui, il faut légaliser le cannabis en France. L'un des co-auteurs sera avec nous pour nous expliquer sa démarche, son pourquoi et une étude économique sur le cannabis. C'est absolument étonnant. Et puis restez bien avec nous, la page culture, c'est un homme qui est à la fois complètement à côté et totalement dans son époque. Si je vous dis Marlène, plonger dans le grand bain, si je vous dis boire une bière au bar du Luxor, vous me dites Philippe Catherine.
Merci. Voilà. Oui, bah oui, forcément.
Et Philippe Catherine sera donc avec nous tout à l'heure et restez bien à l'écoute parce que c'est un personnage étonnant.
Voilà, j'ai plongé. N'hésitez pas à réagir à l'actu de ce samedi 22 juin en publiant un petit commentaire avec le hashtag Europe 1 sur Twitter. Restez avec nous les 18h. Et bon week-end à tous. Le journal, Fabienne Lemoyle, François Clos.
Bonsoir Fabienne.
Bonsoir François.
Alors au sommaire de votre journal ce soir.
Belfort dans la rue pour dire non au plan social de General Electric qui menace 800 emplois dans la région. Une manifestation, vous l'entendrez, est monstre qui dépassait les clivages politiques. Toujours aucune explication après l'incendie qui a fait 3 morts ce matin à Paris. L'attitude des habitants qui ont respecté les consignes de confinement des pompiers ont permis d'éviter un bilan plus lourd. Et puis les Verts réunis en Conseil fédéral, ils pensent déjà à la présidentielle après leur bon score aux européennes.
Europe 1. C'est toute une ville qui était derrière les salariés de General Electric cet après-midi dans les rues de Belfort.
Une manifestation qui dépassait les clivages politiques avec le maire Les Républicains de la ville ou des figures nationales comme Jean-Luc Mélenchon, des syndicalistes comme des représentants du MEDEF. Tous unis pour dire non au plan social qui menace de supprimer 800 emplois rien qu'à Belfort. Théo Manval, vous avez suivi le cortège et il y avait bien plus de monde que les 5000 personnes attendues.
Effectivement Fabienne, avec ce message martelé par les syndicats qui n'avaient pas choisi la place de la résistance au hasard pour rassembler la foule.
Aujourd'hui, la guerre elle est économique, ils sont en train de tout détruire. Est-ce que vous êtes avec nous?
Dans le cortège au premier rang, Jean-Luc Mélenchon marche aux côtés des salariés. Il a même brièvement enfilé un gilet jaune avant de tacler face aux caméras le président de la République qui avait piloté la vente du site à General Electric lorsqu'il était ministre de l'économie.
Je crois qu'il ne comprend rien à l'industrie. Vendre l'Alstom à GE, c'était absurde. Il est peut-être très fort pour la finance, les actions et tout ça, mais l'industrie ne comprend rien.
Au passage du défilé, les commerçants baissent leurs rideaux en signe de solidarité. Les manifestants sont vraiment venus de toute la région.
Ah, du Nord-Territoire. De Belfort. Ben, j'ai mon voisin qui travaille à General Electric, j'ai des cousins qui travaillent à General Electric. Quand on voit le nombre d'ouvriers qu'il y avait à l'époque à l'Alstom et ce que c'est devenu maintenant, enfin, ça fait peur quoi. Notre industrie qui s'en va de notre région, c'est quand même grave.
Alors voir autant de monde avec le sticker soutien aux salariés de GE, ça fait évidemment chaud au cœur, dit Francis Fontana de la CFE-CGC. Il lance lui aussi un appel à Emmanuel Macron.
Il avait promis de revenir au moment de la vente, donc oui, il faut qu'il revienne et faire pression sur General Electric.
La manifestation se termine en face du tribunal de Belfort où les salariés ont assigné GE pour tenter de faire suspendre le plan social. Rendez-vous jeudi prochain pour l'audience.
Théo Manval à Belfort pour Europe 1.
Et puis Fabienne, toujours aucune explication après l'incendie qui a fait 3 morts et un blessé grave ce matin à Paris.
Incendie qui a touché un immeuble de 6 étages dans le 11e arrondissement, qui a mobilisé près de 200 pompiers avec une 50aine d'engins. Et le capitaine Florian Lointier, qui est le porte-parole des pompiers de Paris, note que le bilan est resté limité grâce à l'attitude des occupants de l'immeuble qui sont restés confinés dans leur appartement en suivant les consignes.
Quand les pompiers de Paris sont arrivés donc très rapidement sur les lieux de l'intervention, le feu avait gagné la totalité d'une cage d'escalier, d'une première cage d'escalier donc sur le bâtiment qui est en façade, et au niveau d'un restaurant et d'un hammam. et le feu s'est ensuite propagé sur deux autres immeubles, deux cages d'escalier. Les messages de prévention que les pompiers de Paris avaient fait, notamment suite au dramatique incendie de la rue Erlanger dans le 16e arrondissement et qui avait coûté la vie à 10 personnes, ont été parfaitement respectés puisque les gens sont restés confinés chez eux, ont fermé leurs portes et ont attendu que les pompiers viennent les chercher par ordre de priorité. Ce qui a été réalisé, ce bilan aurait pu être beaucoup plus lourd.
Le capitaine Florian Lointier, porte-parole des pompiers de Paris, avec Romain Oquet. Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris pour déterminer les causes de cet incendie.
Alors vous l'avez peut-être déjà senti, nous en tout cas oui, parce qu'on n'a toujours pas de clim ici à Europe, mais les températures ont clairement commencé à grimper cet après-midi.
Et ce n'est rien en comparaison de l'épisode de canicule que nous allons vivre, François, la semaine prochaine, jusqu'à 40 degrés le jour, 25 la nuit. C'est ce que dit Météo France. Forcément, ça rappelle 2003 et ses morts. Mais le professeur Philippe Sandmarco, qui avait été le premier à mettre en place un système d'alerte après un épisode de canicule à Marseille, se veut rassurant. Pour lui, on a tiré les leçons de 2003.
On pourrait traverser cette canicule sans un seul mort, parce que les messages sont passés et que la plupart des gens se défendent bien. Et quand j'entends Mme Buzyn dire c'est merveilleux, parce que la dernière fois, il n'y a eu que 1500 morts dans les mêmes conditions, on en avait eu 15 000 en 2003, c'est vrai, c'est 10 fois mieux. Mais étant donné ce qu'on pourrait faire, on peut se donner comme objectif zéro mort, à condition de s'en occuper bien et de faire les bons gestes. Et les bons gestes, c'est de 0 à 70 ans, dès que j'ai soif, je bois. Pour les personnes âgées, celles qui sont en perte de réactivité efficace, ceux-là, il faut les refroidir. Et les refroidir, c'est vachement compliqué. Vous brumisez sur leurs avant-bras et ensuite vous faites un petit courant d'air avec un journal plié.
Les conseils du professeur Philippe Sandmarco avec Justin Morin. Europe
1. Dans un instant, on va rejoindre Virginie Riva qui suit le Conseil fédéral des Verts. C'est le premier grand rendez-vous des écologistes qui ont triomphé aux dernières élections aux européennes. Et leur chef, il va voir beaucoup plus loin, vous allez le sentir.
Il est 18h07, la suite du journal sur Europe 1, Fabienne Lemoyle, François Claus.
Fabienne, Europe Écologie Les Verts est réunie en Conseil fédéral à Paris.
Et c'est le premier grand rendez-vous des écologistes depuis leur très bon score aux européennes. Objectif, se positionner par rapport au prochain scrutin, ce sera les municipales. Dans 9 mois, Virginie Riva, vous avez suivi le discours du leader des Verts et clairement Yannick Jadot se projette déjà bien au-delà de cette échéance.
Oui, lorsque Yannick Jadot monte à la tribune avec les députés européens fraîchement élus, la salle se lève, c'est l'ovation, un succès que ne boude pas Yannick Jadot. Il affirme clairement son ambition pour les élections municipales, régionales, mais aussi pour 2022.
Nous avons aussi la responsabilité aujourd'hui de porter une alternative pour une alternance dans notre pays. Alors c'est vrai qu'on n'est pas toujours confortable avec l'élection présidentielle. Ce temps de l'hésitation est révolu.
Yannick Jadot, pas dupe de ceux qui critiquent son excès d'optimisme.
Alors j'entends déjà les railleurs nous dire que nous avons le melon. Que j'ai le melon. Souvenez-vous, nous étions les pastèques.
Et pour gagner, David Cormann, secrétaire général, précise la ligne d'Europe Écologie Les Verts, rassemblée, mais en étant leader.
Nous avons le devoir d'être autonomes, ambitieux et pour autant rassembleurs. Les électeurs et les électrices qui veulent nous rejoindre sont les bienvenus, d'où qu'ils viennent, d'où qu'elles viennent. Nos alliés d'hier sont en miettes. Nous devons en tirer toutes les leçons, avec humilité et réalisme.
Et pour convaincre que les Verts peuvent gouverner, l'ambition, c'est désormais de conquérir des grandes villes.
Virginie Riva du service politique d'Europe 1, autre réunion post-européenne, mais cette fois à huis clos, celle des Insoumis lors de leur assemblée représentative à Vincennes. Cet après-midi, il y a déjà une annonce dans la réorganisation du parti. Le député du Nord, proche de Jean-Luc Mélenchon, Adrien Quatennens, devient le nouveau coordinateur du mouvement, reprenant une partie du périmètre qu'avait Manuel Bompard qui assurait la direction de la campagne pour les européennes.
Et puis Fabienne, en ce samedi 22 juin, c'est une journée d'appel également de ne pas oublier ou de réfléchir à ce qu'on peut faire en matière de dons d'organes et de greffes.
Et l'occasion justement pour l'Agence de biomédecine de sensibiliser et de rappeler que tout le monde est désormais présumé donneur. En France, plus de 63 000 personnes vivent grâce à un organe greffé. C'est le cas de Stéphane Dévoret, que Sébastien Rouxel a rencontré. Il est atteint de mucoviscidose. Sa vie a totalement changé depuis sa greffe de poumon. C'était il y a 6 ans.
Fin 2013, Stéphane n'a quasiment plus de force. Pas même pour marcher ou se brosser les dents. Ses jours sont en fait comptés. Mais un coup de fil en pleine nuit change tout. Un appel qu'il attend depuis 11 mois. Enfin, des poumons sont disponibles, prêts à lui être greffés. L'opération dure 12 heures. C'est une réussite, mais au réveil, Stéphane n'a plus de repères.
La sensation, alors, elle est quand même étrange. Parce que d'abord, vous êtes au début maintenu par des machines. Et quand on vous dit qu'on va débrancher les machines pour que les poumons prennent le relais, c'est une perte de repère totale. Donc c'est l'inquiétude de savoir si eux vont fonctionner. La première impression, c'était de « c'est trop d'air ». Donc il faut réapprendre tout ça, apprendre à faire copain-copain avec ce corps étranger.
Alors il commence un long travail de rééducation, ça prend plusieurs mois, mais très vite, il prend conscience de ses nouvelles capacités, notamment un jour, alors qu'il est dehors, il pleut et donc il trottine pour se mettre à l'abri. Ça peut paraître totalement anodin, mais c'est un exploit. Il n'a jamais couru de sa vie. Aujourd'hui, il participe même à des marathons et à chaque fois, il pense à son donneur. Il ne sait rien de lui, comme le veut la loi française, et pourtant, il l'affirme quand je m'élance. On court ensemble.
Sébastien Rouxel pour ce très beau portrait.
Et cette très belle chute qui est la chute de votre journal. Merci Fabienne pour ce tour complet de l'actualité.
Vous êtes bien sur Europe 1, il est 18h11.
Alors le temps de la météo, ma chère Elena Morna, au moment où on parle, là, les orages éclatent en ce moment et orages qui semblent assez violents dans le sud, hein, Elena.
Des orages localement forts avec de la pluie ou encore un risque de grêle, ils vont s'évacuer cette nuit et retour du soleil demain. Soleil d'ailleurs sur l'ensemble du pays avec quelques nuances grises et quelques gouttes sur la Bretagne le matin, plus sec et plus lumineux l'après-midi, nuances nuages, timides éclaircies sur les départements des bords de Manche et nuances voiles nuageux légers sur les deux tiers nord, voile qui n'altérera en rien l'impression de beau temps. D'autant qu'on commencera déjà à avoir chaud demain, avec des pointes à 35 degrés pour Agen, 33 pour Toulouse ou encore à Avignon, 32 à Paris, à Montluçon, Bordeaux et Nîmes, 31 pour Nantes, Clermont-Ferrand et Lyon, 30 à Lille, Nancy et Marseille, 27 pour Caen, Perpignan et Belfort, 25 à Quimper, 21 pour Cherbourg. Des températures qui resteront élevées dans la nuit de dimanche à lundi, avec pas mal de 30 degrés encore à minuit. La canicule de la semaine prochaine devrait durer jusqu'à samedi au moins, avec un pic de chaleur jeudi et vendredi entre 33 et 40 degrés.
Et oui, il faudra prendre les précautions. Donc milieu de semaine, mercredi et jeudi, attention aux orages en ce moment même. Merci Elena.
Le journal des sports.
Bonsoir mon cher Christophe Lamar.
Bonsoir François.
La Formule 1 d'abord avec le Grand Prix de France au Castellet. Et c'est pas une surprise, la pole pour qui ? Pour Lewis Hamilton.
Et la 86e pole position de sa carrière pour le pilote britannique qui s'élancera juste devant son coéquipier Valtteri Bottas. Mercedes peut sourire. Ses flèches d'argent regardent la concurrence d'en haut, à commencer par Ferrari. Le monégasque Charles Leclerc pointe au troisième rang. À 6 dixièmes, un gouffre. Le premier français Pierre Gasly se classe 9e. On retrouve notre envoyé spécial Axel May en direct du Castellet. Axel, les qualifications se suivent et se ressemblent presque. Mercedes est intouchable.
Ah ça, j'aurais pu vous donner la première ligne avant même la séance de qualification, car que ce soit lors des essais libres hier et ce matin ou lors des qualifs cet après-midi, les flèches d'argent ont dominé les débats. Sur la première ligne, on retrouvera donc le roi Lewis Hamilton devant son lieutenant ou son faire-valoir finlandais, hein, c'est selon Valtteri Bottas. C'est le 6e doublé Mercedes en qualification en 8 grands prix cette saison. Le monégasque Charles Leclerc confirme son immense potentiel. 3e temps des qualifs sur Ferrari devant le hollandais Max Verstappen sur Red Bull. La Ferrari de Sébastien Vettel qui a connu des problèmes de boîte de vitesse et seulement 7e, déception aussi pour Pierre Gasly devant sa famille et ses amis. Le Normand n'a pu faire mieux que le 9e temps, juste derrière la Renault de Ricciardo. Bref, tout est réuni demain pour qu'une Mercedes s'impose, comme cela se passe à chaque Grand Prix cette année où le suspense est totalement absent.
Axel May, envoyé spécial sur le circuit du Castellet, départ du Grand Prix de France demain à 15h10.
Oui, Christophe, on n'est pas prêt de voir un Français gagner au Castellet. Hein. Il va falloir remonter 40 ans en arrière. Jean-Pierre Jabouille sera avec nous en direct tout à l'heure. Il va remonter dans une voiture à 76 ans. La dernière voiture française à avoir gagné un Grand Prix en France avec un pilote français, c'était la célèbre Renault. Le football, Christophe, c'est bien sûr la Coupe du Monde et le début des huitièmes de finale avant notamment le France-Brésil demain soir.
Oui, on approche de la mi-temps en ce moment entre l'Allemagne et le Nigeria. 2-0 pour les Allemands de l'autre huitième de finale du jour opposera la Norvège à l'Australie ce soir à 21h. Pendant ce temps, effectivement, les Françaises se préparent du côté du Havre. Elles affronteront le Brésil demain soir et s'il y a une chose dont personne ne doute, c'est le soutien populaire dont elles devraient bénéficier. Le président de l'Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas, sera leur premier supporter demain soir.
J'y serai bien sûr au Havre pour encourager évidemment notre équipe de France contre le Brésil. Vous avez raison de le rappeler, même si certaines des joueuses du Brésil avaient souhaité venir jouer à Lyon. Donc non, on est typiquement français et complètement tourné vers ce match qui n'est qu'un point de passage, du moins j'espère, avec un huitième de finale qui devrait nous amener en quart de finale avec des choses encore plus sérieuses.
Jean-Michel Aulas au micro de Maxime Schuch. La section féminine de l'Olympique lyonnais compte pas moins de 7 joueuses en équipe de France. Et il faut le rappeler, les filles de l'OL sont 5 fois vainqueurs de la Ligue des Champions.
Et puis il y a du tennis également. Après la terre battue de Roland-Garros, ça sent le gazon.
Effectivement, une finale pour Gilles Simon au Queens. Le Niçois s'est qualifié en 3 manches aux dépens du Russe Daniil Medvedev. Il affrontera le vainqueur du match entre le Canadien Félix Auger-Aliassim et l'Espagnol Feliciano Lopez. Pas de finale en revanche pour Pierre Hugerbert, battu en 2-7 par Roger Federer à Halle. Le Suisse ira chercher un 10e sacre, sa décima à lui, face au Belge David Goffin demain. Et puis chez les femmes, Ashley Barty digère bien son premier titre du Grand Chelem. C'était à Roland-Garros. L'Australienne s'est qualifiée pour la finale du tournoi de Birmingham. Elle sera opposée à l'Allemande Julia Goerges.
Merci Christophe, on vous retrouve à 19h. On aura des nouvelles de Allemagne-Nigeria. Premier 8e de finale, 2-0 pour l'Allemagne à la mi-temps.
Europe 1.
Dans un instant, bruit de bottes dans le golf. Et plus même, que se passe-t-il entre l'Iran et les États-Unis? Du bluff, peut-être plus. Faut-il craindre un conflit qui embraserait toute la région? On va tenter de répondre à ces questions dans un instant.
18h18, vous écoutez François Claus jusqu'à 20h sur Europe 1. C'est votre grand journal du soir.
Et nous allons surtout écouter le professeur Bertrand Badie. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur à Sciences Po, spécialiste des relations internationales. Et on voulait tenter de décrypter, de comprendre ce qui se passe là-bas, dans la mer d'Oman, du côté de l'Iran. Zone absolument stratégique et qui inquiète et qui pourrait susciter un tremblement de terre dans toute cette zone en forme de domino. Résumé des épisodes, des derniers épisodes, où Donald Trump, plus fort que lui-même, nous a fait vivre une page qui restera peut-être dans l'histoire de la géopolitique, nous faisant entrer dans la fameuse Situation Room de la Maison-Blanche, là où sont prises les grandes décisions, car il est allé sur Twitter pour nous dire « Oui, j'ai donné un ordre d'aller frapper en Iran après qu'un drone américain a été abattu vraisemblablement par les Iraniens dans une zone qui restera à déterminer. Oui, 10 minutes plus tard, j'ai décidé de ne plus frapper parce que j'ai demandé à un général combien de morts ça ferait. Il m'a répondu 150 et ça me semblait disproportionné. » Derrière ce jeu de Trump, qui intervient comme par hasard quelques jours après l'annonce de sa candidature aux futures élections présidentielles américaines et ce message destiné à l'opinion américaine, Bertrand Badie, très clairement, du côté de l'Iran, on a tenté, lancé des signes, d'abord sur les pétroliers, puis sur ce drone. Et l'Iran annonce qu'il va reprendre son programme d'enrichissement d'uranium le 7 juillet prochain. Il y a une tension qui monte.
Oui, alors sur les pétroliers, on ne sait pas, hein, puisque l'Iran déclare qu'elle n'a rien à voir avec cette affaire. Ce qui est différent à propos et du drone et de l'annonce sur le programme nucléaire, où là, effectivement, la chose est pleinement assumée à Téhéran. Alors, c'est intéressant parce qu'on a l'impression en même temps que l'Iran n'a pas tellement le choix, c'est-à-dire se trouve en quelque sorte prise au piège d'une diplomatie d'annonce et d'affichage et une sorte de proactivité rhétorique de la part du président des États-Unis. Et également, l'Iran poursuit un vieux projet, un projet qui est même antérieur à la révolution islamique de 1979, qui est de s'imposer comme puissance régionale. Le grand problème de l'Iran, c'est que c'est un pays important, puissant, très peuplé, qui a stratégiquement une position extrêmement importante et qui n'a jamais été reconnu comme un acteur majeur, comme un acteur régional. Eh bien, dans cette situation un peu particulière et terriblement dangereuse, c'est une façon de s'affirmer et en contrepoint des erreurs, des fragilités, des ambiguïtés de la politique de Donald Trump, d'apparaître comme un véritable acteur du jeu moyen-oriental. Donc l'Iran ne perd pas tout dans cette affaire, mais en même temps, ça veut dire que l'Iran n'a pas le choix. C'est-à-dire ne peut exister qu'en s'affirmant, en se réaffirmant, et dans le contexte actuel, ça veut dire en se radicalisant.
Bertrand Badie, depuis que Donald Trump a décidé de sortir de l'accord signé par son prédécesseur Obama sur le nucléaire, l'Iran est également étranglé économiquement. La situation sociale dans le pays, on parle d'un quart peut-être plus d'Iraniens en dessous qui vivent en dessous du seuil de pauvreté dans le monde, il y a également cette situation-là, cette volonté américaine de vouloir torpiller, à défaut de le faire militairement, économiquement le pays, et qu'il y a une volonté d'en sortir du côté des ayatollahs.
Alors, effectivement, vous avez raison, la situation économique et sociale de l'Iran, depuis notamment le renforcement des sanctions, est terrible. Et elle crée effectivement, dans la population iranienne, un sentiment de profond malaise, de crainte, de peur, d'angoisse. Simplement, l'erreur, et ce n'est pas la première fois qu'elle est commise, À chaque fois qu'on utilise les sanctions, on croit que l'on fait céder. Et l'histoire récente montre que cela ne se produit pratiquement jamais. Pourquoi ? Parce que le propre des sanctions, c'est de renforcer les postures nationalistes, de se sentir comme pris par un défi, de réagir à ce défi. Quand on veut en plus s'afficher comme acteur majeur, eh bien, le risque que l'on se soumette parce que les pressions sont fortes sont extrêmement minimes.
D'autant plus que l'Iran a peut-être un pouvoir de nuisance. Nous sommes en ligne avec Alain Frachon. Bonsoir Alain Frachon.
Bonsoir François, bonsoir Bertrand.
Éditorialiste au Monde, et nous avons beaucoup aimé ici à Europe 1 votre édito dans Le Monde daté de jeudi.
Merci.
Vous racontez d'un côté, là je vous cite, la vieille culture persane du bazar, de l'autre celle d'un promoteur immobilier new-yorkais, héritier paresseux de la fortune de son père, et que finalement, celui qui se montre le plus fort est peut-être en train, c'est ce que vous nous dites, est peut-être en train de se faire piéger.
Oui, je pense qu'il n'y a pas vraiment, si vous voulez, de vainqueur. C'est une partie, un face-à-face extrêmement difficile, avec d'un côté Trump, qui d'une certaine manière, si vous voulez, est pris au jeu de sa rhétorique. Trump était convaincu qu'il ferait céder les Iraniens en les faisant suffoquer économiquement. Mais non, comme le dit Bertrand Badi, les Iraniens tiennent bon et ils disent, avec un pareil régime de sanctions, qui d'une certaine manière nous demande, est une sorte de solliciter la capitulation de ce régime, nous ne renégocierons pas. Or, Trump veut qu'il renégocie. Il s'est fait fort de les ramener à la table de négociation, mais avec les conditions qu'il a mises, avec le programme qu'il leur promet, eh bien, il n'y a pas de négociation possible. D'un autre côté, comme vous le disiez, vous avez l'Iran. Alors, l'Iran est suffoqué sur le plan économique, et l'Iran, donc, montre sa capacité de nuisance dans le Golfe, au détroit d'Ormuz, et puis un peu après en mer d'Oman. Mais c'est un jeu assez dangereux. D'une certaine manière, les Iraniens sont en train de dire à Trump, nous savons que vous ne voulez pas d'engagement militaire, vous ne voulez pas vous mettre dans un engrenage militaire, mais nous avons la capacité de faire monter les prix du pétrole, etc. Je dirais que ce qu'on n'a pas assez dit dans cette histoire, c'est que ce qui se passe en ce moment en mer d'Oman, c'est plus une manière d'exercer des pressions sur la Chine, sur les Européens. La Russie ne compte pas vraiment là-dedans, mais 80% du pétrole et du gaz qui passe par la mer d'Oman est destiné à l'Asie, et notamment à la Chine. Et c'est une manière de dire aux autres signataires de l'accord, écoutez, venez à notre secours, ou alors, vous aussi, vous allez être pris dans cet engrenage, les prix du pétrole vont exploser si ça continue comme ça, etc. Donc voyez, vous avez une situation qui dépasse le simple face-à-face entre l'Iran et les États-Unis, avec, me semble-t-il, des appels du pied que fait l'Iran aux Chinois et aux puissances européennes signataires de l'accord de Vienne de juillet 2015.
D'autant plus, Alain Frachon, que les Européens n'ont pas réussi à convaincre l'Amérique de revenir sur la décision de dénonciation de cet accord. L'affaire va se régler, sûrement pas, mais sera devant le Conseil de sécurité de l'ONU lundi. Bertrand Badi, est-ce qu'une frappe américaine en Iran aurait des conséquences terribles ? On ne parle pas seulement là du pétrole, on parle de toute la zone, l'équilibre, Syrie, Liban et Israël, évidemment.
Ah bah, des frappes américaines au Moyen-Orient créeraient un enchaînement de réactions que nul n'est en mesure de contrôler. Et je dois dire, le principal danger, il est là. C'est-à-dire qu'on a l'impression que Trump n'a pas de stratégie à long terme. Il a une diplomatie du présent, Trump. C'est-à-dire une diplomatie d'affirmation, d'affichage. Il s'agit de montrer les muscles face à son électorat qui n'aime pas l'Iran et qui est flatté de cette politique musclée des États-Unis dans le Golfe. Il s'agit aussi de montrer à ses alliés étranges, que sont en même temps Riyad et Tel Aviv, que l'ennemi commun fédère, structure, organise. Donc c'est une façon d'organiser, de réorganiser le jeu au Moyen-Orient. Mais il n'y a pas de solution programmée. Et c'est ça le véritable problème. C'est-à-dire, il n'y a pas de stratégie diplomatique parce qu'il n'y a pas de diplomatie trumpienne. Il y a de l'affichage trumpien, mais il n'y a pas l'idée de parvenir à un but quelconque.
Merci beaucoup. Vous dites Trump.
Oui, parce que c'est son nom.
Vous dites Donald Trump, donc.
Oui.
Merci beaucoup de nous avoir accordé vos réflexions. Bertrand Maddy, je renvoie à votre dernier ouvrage, « Quand le Sud réinvente le monde ». C'est aux éditions La Découverte. Et je remercie Alain Frachon de nous avoir accompagnés dans ces réflexions qu'on peut lire régulièrement, évidemment, dans le monde, notamment sur ces questions américaines et iranienne. Voilà, on espère vous avoir donné quelques clés sur ce qui se joue en ce moment dans cette zone du monde. Et ça dépasse bien évidemment seulement cette mer d'Oman. Europe 1. Dans un instant, tout autre registre, un peu vintage. Il a 76 ans et il va remonter dans une Formule 1 sur le circuit du Castellet. Et il sera avec nous en direct dans un instant, Jean-Pierre Jabouille.
Votre grand journal du soir se poursuit jusqu'à 20h sur Europe 1. Dans un petit peu moins d'une minute, il sera 18h30, François Claus.
Et pour l'heure, c'est l'heure du rappel des grands titres de l'actualité. Bonsoir Sophie Tussaud.
Bonsoir François, bonsoir à tous. Résister au rouleau compresseur de General Electric. La population de Belfort était mobilisée aujourd'hui contre le plan social du groupe américain qui entend supprimer un millier d'emplois en France. Jean-Luc Mélenchon, Philippe Poutou ou encore Nathalie Arthaud étaient présents dans le cortège. Un cortège dans lequel il y avait également des gilets jaunes, acte 32 de leur mobilisation. Entre 500 à 600 personnes ont défilé à Marseille, où un appel national à manifester avait été lancé. 12 personnes ont été arrêtées dans la cité phocéenne. Un nouveau coordinateur pour la France insoumise, c'est Adrien Quatennens, le député du Nord, qui a été nommé. Il aura pour mission d'animer le parti et de superviser la création de ces nouvelles instances. À la menace d'un embrasement dans le Golfe, en cas de frappe américaine, l'Iran avertit les États-Unis que la moindre attaque aura des conséquences dévastatrices pour leurs intérêts dans la région. Et en pleine tension avec l'Iran, Donald Trump affirme que si l'Iran renonce au nucléaire, il sera son meilleur ami.
Oui, c'est cette manière de manier le chaud et le froid. En attendant, du côté de la météo, ma chère Elena, c'est le chaud. C'est le chaud qui prédomine avec une surchauffe des températures qui commence dès demain.
Exactement, un peu de région en dessous de 30 degrés, ce sera le cas en bord de Manche et Finistère avec 21 à Cherbourg par exemple, 24 à Brest. On aura aussi quelques secteurs à 27-30 degrés, La Rochelle, Biarritz ou encore Montpellier et Belfort. Partout ailleurs, il fera encore 30 à 35 degrés. Le plus chaud étant pour le sud-ouest. Alors on prévoit 32 degrés aussi à Paris, à Angers et Auxerre. Des températures déjà au-dessus des normales de saison et une journée lumineuse malgré la présence d'un voile nuageux sur les deux tiers nord. C'est vrai que ce sera plus nuageux en bord de Manche avec quelques gouttes en matinée seulement sur la Bretagne. Et puis sur l'Est, vous en aurez terminé avec les orages. Les derniers s'est vécu en ce moment, avec force hein, quand même parfois, par les Alpes du Sud. Alors cette envolée du mercure n'est qu'un début. Hein. On va gagner chaque jour quelques degrés supplémentaires pour atteindre les 38-40 degrés jeudi et vendredi prochain sur une grande partie du pays. Deux journées de chaleur extrême pile poil au moment du brevet des collèges qui se déroulera dans des conditions difficiles ou tout du moins dans des salles d'examen surchauffées.
Prévoir une bouteille d'eau non pour les examens. Merci Elena.
Et maintenant, François Claus, on va parler F1 dans votre grand journal du soir.
Et oui Marlène, puisque nous sommes à la veille du Grand Prix de France du Castellet, on fait un petit coucou là-bas à notre ami Philippe Bandel, évidemment, qui réalise son rêve de gosse. Hein. Il est speaker tout le week-end. Alors les plus anciens s'en souviennent certainement, c'était le 30 septembre 1980, Grand Prix du Canada. Jean-Pierre Jabouille, pilote français de Formule 1 au volant de la célèbre Renault, s'encastre à pleine vitesse dans un rail de sécurité. Jean-Pierre Jabouille restera 30 minutes coincé dans l'habitacle avant d'être transporté en urgence à l'hôpital, opéré, puis sauvé. Un an plus tôt, Jean-Pierre Jabouille, c'était le 30 juillet 1979, était entré dans l'histoire, premier pilote français à gagner un grand prix de Formule 1 au volant d'une voiture française sur un circuit français. C'était évidemment la célébrissime Renault Turbo. Nous sommes très heureux ce soir d'avoir en direct sur l'antenne d'Europe 1 un certain Jean-Pierre Jabouille. Bonsoir, monsieur Jabouille.
Bonsoir.
Vous vous apprêtez tout simplement, Jean-Pierre Jabouille, 40 ans presque jour pour jour, à remonter à l'âge de 76 ans au volant de cette voiture mythique de 1979. Dans quel état d'esprit êtes-vous ?
Bien, vous m'en dites tellement de choses sympas. Et en fin de compte, la seule chose qui n'est pas sympa, c'est l'âge, mais c'est comme ça pour tout le monde. Et je suis très content parce que je suis en bonne forme. Et par contre, effectivement, je vais monter dans une voiture exceptionnelle. C'est une voiture sur laquelle j'ai travaillé énormément. Toute l'équipe Renault ont travaillé d'une manière incroyable parce que les Anglais avaient tendance à se foutre de nous quand on passait, parce que la voiture, souvent le moteur partait en fumée. Et Ken Tyrrell, qui était une sommité de l'époque en F1, se bouffait de rire. Et ça, ça m'énervait au plus haut point. Ça c'est un petit détail.
Remonter dans cette voiture, c'est faire remonter, j'imagine, pour vous aussi, des sensations et des émotions particulières.
Ah ben ça, c'est sûr. Déjà, de faire de la F1, c'est des sensations comme on a nulle part ailleurs. Moi, j'avais, à mes yeux, la meilleure voiture pour gagner. D'ailleurs, ça l'a prouvé, puisque une période, jusqu'à temps que j'ai mon accident, je faisais ou pôle ou je gagnais, ou j'avais un petit problème technique. Donc, de voir cette voiture, ça me met pratiquement les larmes aux yeux. J'ai fait beaucoup de choses avec elle, voilà. Et ça m'émeut un petit peu.
On entend votre émotion et elle est palpable. Vous ne vous doutiez pas que vous alliez ainsi marquer l'histoire d'une certaine manière, Jean-Pierre Jabouille?
Ah, pas du tout. Je prenais les courses au fur et à mesure les unes les autres, parce qu'à l'époque, c'était très dangereux. On ne pouvait pas faire de plan sur la comète. J'ai gagné au Grand Prix de France avec un endroit français, un pilote français, des pneus français. Je pense que ça ne sera pas demain qu'on retrouvera un tel ensemble capable de gagner.
Voilà. Oui, c'était cette époque bénie. Je re-regardais les statistiques de la Formule 1. Pour aujourd'hui, ceux qui suivent la Formule 1, ça fait rêver. Hein. Alain Prost, évidemment, qui a gagné, et Renault, 5 des 6 Grands Prix de France au début, dans les années 90. En 82, il y a 4 pilotes français aux 4 premières places du Grand Prix de France. Arnoux, Prost, Pironi est tombé sur les 4 premiers, Pironi est tombé sur Ferrari. Cette époque bénie est bien loin, et en même temps, la Formule 1, depuis l'année dernière, revient au Castellet, revient en France, et j'imagine que vous ressentez autour de vous, Jean-Pierre Jabouille, cette passion qui ne meurt pas chez les vrais amoureux de la Formule 1.
Eh bien, vous avez tout trouvé, parce que c'est pour ça que je suis là. Là, c'est toute ma vie. Et là, il y a toutes les voitures Renault de différentes gammes de l'époque, de la première voiture moteur turbo, et puis eh ben, la RS10 qui est là. Il n'y a rien à dire sur cette voiture, tellement tout est bien.
Allez, vous allez vous offrir un petit plaisir, là. Vous allez accélérer et rouler à combien, Jean-Pierre Jabouille, tout à l'heure?
Oh, ben, comme un peu ce que vous entendez, assez vite. Mais bon, en ce qui me concerne, vous avez dit l'âge que j'ai, eh bien, moi, je suis très fier de pouvoir conduire ce genre de voiture à mon âge. Voilà. Mais je sais très bien que dans mon tempérament, il faut que je me freine. C'est ça l'important, sans ça, bon. Mais ça fait vibrer d'entendre ça. C'est sûr que ça gêne certaines personnes, mais vu le nombre de gens que ça déplace, ça ne doit pas en gêner beaucoup.
On se souvient des embouteillages monstrueux l'année dernière pour le retour, 28 ans après, sur le circuit de Castellet, 10 ans après en France du Grand Prix de Formule 1. Alors vous dites, je vais me freiner, n'oubliez pas d'appuyer sur le frein quand même, Jean-Pierre Jabouille, mais on sera de tout cœur avec vous dans cette Renault Turbo que vous allez de nouveau habiter pour ce voyage dans le passé. Merci beaucoup d'avoir été en direct sur Europe 1 et de nous avoir fait vibrer au son et au nom de cette passion qui est celle de la Formule 1. Bonne chance et bonne continuation à vous, Jean-Pierre Jabouille.
Ben, peut-être à bientôt sur un autre circuit.
Absolument. Et un grand merci à Axel May qui était à vos côtés et grâce à qui on a réalisé ce direct du circuit du Castellet.
Europe 1.
Allez Marlène, dans un instant, on ne va pas totalement quitter le sport, c'est notre page média.
Oui.
On va parler de Coupe du Monde. C'est le début des huitièmes de finale, avant le France-Brésil au Havre. En ce moment même, l'Allemagne, dans le premier huitième de finale, mène 2-0 à la mi-temps face au Nigeria. Mais on va en parler sous l'angle médiatique. Est-ce que ça rapporte? Combien d'exemplaires en plus? Puis sur la manière dont on traite ce sport, comment on parle des femmes médiatiquement, est-ce qu'il n'y a pas encore là des progrès à faire? A tout de suite avec Jérôme Cazadieux, directeur de rédaction de l'équipe.
Il est 18h40, la suite de notre grand journal du soir sur Europe 1. C'est l'heure maintenant d'ouvrir la page média. François Claus.
Bonsoir Jérôme Cazadieux.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de la rédaction de l'équipe. Quand on dit l'équipe, c'est à la fois le site, la télé et le journal.
Oui, oui, l'équipe maintenant est un média global qui est né en 1946, a fêté ses 70 ans il y a 3 ans, mais qui est devenu un média qui a une existence sur tous les supports, même si, je dirais aujourd'hui, le premier support où rentre le plus de nos lecteurs, c'est le numérique.
C'est le numérique.
Avec le numérique gratuit en particulier, où on a en moyenne entre 3 et 4 millions de personnes par jour qui viennent sur notre site ou nos applications.
Et on évoquera tout à l'heure justement à l'occasion de cette Coupe du Monde, parce que les grands événements permettent des grandes avancées technologiques sur la manière dont vous l'avez justement rénové, renouvelé, sur la manière d'aller plus vite vers l'info et vers ce que cherchent les, lecteurs, téléspectateurs, c'est aujourd'hui des consommateurs multimédia de presse. La question est simple, est-ce que vous vendez depuis maintenant 15 jours plus de journaux?
Alors on vend sur, je dirais, sur les comptes rendus des matchs de l'équipe de France féminine un peu plus, voilà. On a vendu mieux sur le premier match des Bleus, sur le deuxième match des Bleus, puis comme pour les garçons, quand le contenu du match n'est pas très très intéressant pour le téléspectateur et pour nos lecteurs, eh bien derrière, l'effet est un peu moindre. Nous, je dirais que l'effet il sera plus important à partir des matchs à élimination directe, c'est-à-dire les huitièmes de finale.
Donc à partir de demain soir.
Exactement, les huitièmes de finale, les quarts de finale, on l'espère tous face aux États-Unis.
Et vous avez un chiffre de pourcentage d'augmentation?
On a eu un petit peu autour de 10% sur le premier match, sensiblement la même chose sur le deuxième match, et je dirais 4-5% sur le troisième match face au Nigeria qui avait été de faible facture.
Et sur l'application?
Ça marche plutôt pas mal en gratuit, même si on sait par exemple que les matchs sont diffusés à la fois sur des chaînes publiques et sur une chaîne payante, on fait 3-4 millions de pages vues, donc ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de gens qui viennent sur le site pour suivre toutes les infos globalement au fil de la journée.
Donc il y a un véritable engouement. Est-ce que vous êtes en mesure de dire si vous gagnez des lectrices?
Moi, je crois que sur cette compétition-là, souvent les compétitions féminines sont majoritairement regardées par des hommes. Mais là, je dirais que sur cette compétition-là, on a peut-être plus de femmes qu'avant. Ça, c'est plus, je dirais, de l'ordre de l'intuition. Voilà, donc on espère gagner des lectrices, mais j'en ai pas la certitude et j'ai aucune démonstration scientifique qui peut le prouver.
Alors, ce qui nous a frappé, c'est effectivement ces énormes scores de télévision. Plus de 10 millions de téléspectateurs pour le match d'ouverture de l'équipe de France au Parc des Princes. Et évidemment, du côté du diffuseur, du côté de TF1, je vous propose d'écouter ce que disait sur Europe 1 François Pélissier, directeur des sports, directeur général de TF1 Production. C'était au micro de Christophe Lamarre.
Ces scores d'audience exceptionnels, on savait que ce serait un bel événement. En revanche, peut-être qu'on ne s'attendait pas à ces niveaux aussi exceptionnels d'audience dès le démarrage, près de 10 millions de téléspectateurs sur TF1. On a revu les tarifs publicitaires, c'est public, hein, ils ont été augmentés de 50 à 60% sur les matchs de l'équipe de France, parce que, encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, je reconnais qu'on ne s'attendait pas à ça.
Alors, on ne s'attendait pas à ça. Pour être clair, hein, les 30 secondes de publicité sur TF1 pendant un match sont passées de 73 000 euros à 116 000 euros. Du côté de l'équipe, vous engrangez également un petit peu de revenus supplémentaires?
Oui, sur la publicité, notamment dans le journal, on a les partenaires de l'équipe de France qui sont extrêmement fidèles, voilà, et qui sont tout le temps là. Moi, j'imagine aussi, sur le modèle un peu de ce qui s'est passé il y a un an avec les hommes, si les filles vont vraiment loin, si elles battent le Brésil demain, et si elles battent les Américaines derrière et qu'elles vont assez loin, une nouvelle histoire va s'écrire. Ça aura un impact à la fois sur nos recettes publicitaires, mais également sur nos résultats, à la fois en kiosque ou sur le numérique ou en télévision.
Et sur l'économie du pays, incroyable les audiences à l'étranger, il faut les signaler. Il y a eu par exemple 1 600 000 téléspectateurs avec un pic à plus de 2 millions aux Pays-Bas. On a eu 80% de parts de marché en Chine, 20 millions de téléspectateurs là-bas pour le Allemagne-Chine, évidemment à échelle chinoise, plus de 3 millions de téléspectateurs également, Italie-Allemagne, c'est un phénomène planétaire qui va bénéficier à la France.
Oui, c'est un phénomène planétaire. Je pense que tout le monde a sous-estimé une chose, c'est que c'est une Coupe du Monde. Voilà. Et quand on dit Coupe du Monde avec une affiche France-Brésil, ça fait rêver les téléspectateurs, les fans de sport. Donc évidemment que ça bénéficiera à tout le monde. Après, il faudra voir dans quelle mesure ça peut se transformer derrière. C'est-à-dire qu'une fois que la Coupe du Monde sera terminée, que le championnat de France, par exemple, qui se déroule tout au long de l'année, va vraiment bénéficier d'un impact positif.
On dit que ça peut venir à l'échelle d'une génération parce qu'il y a aussi des filles qui vont venir jouer au foot dans les clubs et qu'on le mesurera évidemment plus tard. Deuxième aspect de cette Coupe du Monde féminine, son traitement, j'allais dire, éditorial. Je vous propose, Jérôme Cazadieu, d'écouter ce petit extrait d'un journal télévisé de TF1.
Quelques belles images de ces premiers matchs, de cette première semaine, choisies par Michel Izard. C'est l'œil de Michel, regardez.
Avec des gestes si délicats, au bout de doigts si fins, on peut comprendre que certains rêveraient d'être à la place de la balle. Mais l'essentiel est ailleurs, dans ce jeu léger de jambes, pour faire, comme les garçons, du tricot sur la pelouse.
Caricature, évidemment, du côté de l'équipe sur ce traitement éditorial, c'était quoi? On traite le foot des filles comme le foot des garçons?
Exactement, nous on applique...
Verticalité du jeu, 4-3-3...
Exactement, on applique exactement nos mêmes grilles d'analyse pour l'équipe de France féminine que l'équipe de France masculine, ce qui nous a valu quelques critiques il n'y a pas très longtemps, puisqu'on nous a jugé un petit peu sévère sur le compte-rendu du troisième match des Bleus contre le Nigeria. Non, quand les joueuses ne jouent pas bien, s'il y a des erreurs qui sont commises, on l'écrit, Et on continuera à le dire, voilà. Je pense que c'est une question de crédibilité, comment dire, vis-à-vis de nos lecteurs et nos lectrices. Ils ne veulent pas qu'on leur raconte des bananes, parce que sous couvert que c'est du sport féminin, il faudrait trouver que c'est absolument génial.
Et ça ne vous énerve pas de voir tous ces commentaires qui se multiplient ? Ah, c'est agréable, il y a plus d'espace, il y a plus de jeux, ça... Avec une forme de condescendance, finalement.
Après, moi, je distingue deux choses. Je pense qu'on a la chance d'avoir une équipe de France qui a un jeu qui est plutôt sympa, même si le dernier match n'a pas été extraordinaire, mais les garçons, ça a déjà été le cas il y a un an. On a vu quand même pas mal de matchs vraiment sympas, voilà. Les Américaines jouent extrêmement bien, le match face à la Suède était intéressant, donc je pense qu'il y a une forme d'attractivité quand même de la compétition pour le téléspectateur qui, ou voir le spectateur qui est dans les stades.
Il faut en fait changer de logiciel, on regarde des filles jouant au foot et pas comparer avec des matchs d'hommes.
Je pense qu'il faut arrêter de comparer, voilà, c'est un même sport, mais voilà, il n'y a pas tout à fait les mêmes caractéristiques, voilà, les caractéristiques des hommes, oui, ils ont plus d'impact physique et personne ne pourra nier la vitesse du jeu, etc., mais à quoi ça sert de comparer les deux ? Je pense qu'il faut prendre le plaisir qu'on a à prendre sur cette compétition. Et puis si, par exemple, bah, y a une joueuse qui fait n'importe quoi, il faut être capable de le dire. S'il y a une gardienne qui est nulle, il faut le dire. S'il y a un arbitrage maison hallucinant, bah, il faut être capable d'être critique. Voilà, c'est appliquer les mêmes recettes.
Ça a été le cas sur la fameuse décision du pénalty accordé à l'équipe de France. On a pu le lire dans l'équipe. L'application plus rapide, plus simple, plus mobile, disais-je au début. C'est un impératif pour vous que d'évoluer techniquement au fur et à mesure des grands événements.
Tout à fait. Nous, on a profité de la Coupe du Monde pour essayer de rebooster notre site. On a un nouveau site avec une technologie qui permet un chargement des pages beaucoup plus rapide. Le but, c'est simple, hein, c'est d'améliorer l'expérience de notre utilisateur, qu'il soit internaute, mobinaute. Donc voilà, nous, on est plutôt ravis de ce qui a été fait et on attend de voir les résultats dans pas très longtemps.
Et puis, allez sur Explore. Il y a notamment, c'est là où on va au fond des choses et formidable sujet sur... l'entraîneuse de l'équipe de France, Corinne Diacre, notamment. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans ces réflexions sur le foot féminin. Jérôme Casadieu, directeur de rédaction de l'équipe.
Merci.
Europe 1.
Et dans un instant, ce que vous n'avez pas vu à la télé qu'il fallait voir, ou ce que vous avez vu qu'il faudrait revoir, c'est la séance de rattrapage signée Eva Rock, bien sûr. Et puis à 18h48 bientôt, Marlène, ça sent bon quoi ? Ça sent bon...
La planche apéro.
Eh oui, il est là, il y en a un chef, vous allez voir, ça va être super bon ce soir.
Oh, j'ai hâte. Jusqu'à 20h, c'est votre grand journal du soir sur Europe 1, suite de notre page média avec le replay télé François Claus.
Tout ce qu'il fallait voir cette semaine à la télé, tout ce que vous n'avez peut-être pas vu, mais que vous pouvez revoir grâce à vous, Eva Rock. Bonsoir.
Bonsoir François, bonsoir à tous.
L'heure de la séance de rattrapage, trois programmes cette semaine, trois documentaires, mais qui nous parlent.
Exactement, trois programmes dans un genre extrêmement différent. Je vous propose de débuter par un voyage dans le temps, parce que certains rêvent toujours, quand ils sont enfants, de construire des châteaux de sable sur la plage. D'autres s'imaginent construire de vrais châteaux médiévaux. Eh bien, ils l'ont fait. Direction la Bourgogne pour découvrir le château de Guédelon.
À Guédelon, ils ont donc décidé de bâtir un château en partant de zéro et en utilisant les mêmes matériaux et les mêmes outils que leurs prédécesseurs au Moyen-Âge.
On y va ?
Des experts scientifiques aident les artisans à comprendre comment faisaient nos ancêtres.
Vous faites partie des équipes qui vont apporter la documentation historique, archéologique, pour que les artisans puissent être prêts et du savoir-faire du Moyen-Âge.
Guédelon, François, c'est une aventure humaine extraordinaire qui est retracée dans ce documentaire qui est à la fois scientifique et pédagogique et qui devrait vous donner envie d'aller visiter ce qui demeure le plus grand chantier d'archéologie expérimentale. Et c'est à revoir sur arte.tv.
Et ce qui est extraordinaire, c'est que ça dure sur le temps.
Oui,
plus de 20 ans que
exactement.
Le chantier est en cours. Alors on poursuit avec vous, Eva. Autre documentaire, mercredi soir. Sur France 5.
Exactement, dans un genre totalement différent, mais quel bonheur de découvrir la 7e saison de Nu et culotté. Nancy Moots, ce sont deux globetrotteurs qui se lancent dans des voyages défis et qui débutent toujours leur aventure absolument nus et sans argent, à eux de se débrouiller et de compter sur la solidarité des gens qu'ils vont croiser. Pour ce premier épisode, ils sont en plein cœur des Vosges. Ils décident de rejoindre la Norvège pour un bain de minuit, un soir de pleine lune. Ça débute plutôt bien pour eux parce qu'en pleine forêt, un véhicule va s'arrêter. Le chauffeur leur offre ses vêtements de travail. Et quand on lui demande à ce chauffeur s'il n'a pas eu peur quand même en voyant le duo comme ça en pleine nuit, eh bien réponse.
Oh, moi j'ai rarement peur, je fais 2 mètres, tu vois. C'est pas 2 mecs à poil dans les Vosges qui vont me faire peur. Non, mais tu te dis quoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Moi j'ai pensé, je me suis dit, putain, les mecs ils se sont fait dépouiller, puis après tu vois qu'ils ont des caméras, ils ont des bâtons. Tu te dis, non, ils se sont pas fait dépouiller parce qu'ils se sont fait dépouiller les caméras pour les fringues. Et puis bon.
C'est un périple toujours aussi émouvant qui est rythmé par des rencontres improbables. Ça s'appelle Nu et culotté. Je vous encourage grandement, François, à découvrir cette collection de documentaires sur France.tv.
Ah oui, non, mais je vais y aller surtout. Moi, j'ai vécu une scène comme ça. Je me suis fait dépouiller sur une plage au Portugal. Je me suis retrouvé nu dans mon duvet. On m'avait tout volé. Ben, je suis quand même rentré en France en stop et tout seul. Allez, troisième documentaire.
Et vous êtes habillé devant moi.
Je suis encore habillé. Voilà. Troisième documentaire que vous nous conseillez. Allez, il est d'actualité.
Et oui, d'actualité. Et puis je pense qu'il va vous ravir, vous qui aimez le sport en général et le foot en particulier, un film intitulé Une chance sur un million. Les réalisateurs Sébastien Dagressard et Arnaud Muller ont suivi pendant un an trois jeunes footballeurs. Loris et Malamine qui viennent d'intégrer le centre de formation à Clairefontaine, pendant que Clarence, lui, en sort de ce centre de formation et rejoint les Girondins de Bordeaux. Il y a peu d'élus pour intégrer ces structures, encore moins d'élus quand il s'agit de signer un contrat pro. Ces ados le savent pertinemment, mais ils continuent de croire en leur rêve, comme Malamine. Alors lui, du haut de ses 14 ans, il est déjà scruté par les plus grands clubs. Tous lui prédisent une carrière à la Mbappé. Il vient d'ailleurs du club de Bondy, comme Mbappé, donc il rejoindra dans quelques semaines Monaco, comme Mbappé. Voilà, un gamin qui a la tête sur les épaules.
Tous ceux qui font du foot, ils font pour la passion, mais on sait aussi c'est pourquoi. Faut pas se mentir. Je fais ça parce que j'aime, mais je sais qu'il y a de l'argent derrière. Si personne peut dire qu'il fait du foot 100% pour de la passion, c'est mentir ça.
Tu penses qu'il y a trop d'argent dans le foot?
Ouais, trop. J'ai juste qu'il y en a trop, mais si tu me proposes le salaire à Cristiano Ronaldo, je le prends très vite même.
Mais il n'est pas fou, hein. Alors moi, je ne sais pas ce qu'il va devenir, Malamine, mais on sent chez lui un truc en plus par rapport aux autres ados.
Le mimétisme avec Mbappé, on croirait entendre Mbappé, voix, c'est pareil, extraordinaire.
Ouais. Et il est vraiment très attachant, ce gamin. Documentaire très réussi, parce qu'au-delà des témoignages des enfants, le travail réalisé par les éducateurs est vraiment mis en avant, le rôle de la famille également. Et puis on mesure à quel point ces rêves d'enfants peuvent être de courte durée, une blessure physique, un coup de moins bien. Et c'est des carrières qui se brisent. C'est à revoir sur France.tv, c'est absolument formidable. Une chance sur un million.
Merci beaucoup Eva, c'était la séance de rattrapage.
Il est 18h54, chaque samedi un petit peu avant 19h sur Europe 1 dans votre grand journal du soir. On vous met l'eau à la bouche et je vois François Claus qu'il y a de bonnes choses là sur la table.
Alors on va entendre ce bruit quand même sympathique, vous l'avez compris, c'est l'apéro, bientôt l'apéro, la planche apéro. Et nous sommes heureux d'accueillir ce soir Monsieur Guillaume Lutard, bonjour.
Bonsoir, bonsoir.
Guillaume Lutard, chef à l'Alcazar, on va parler de votre lieu, un des lieux mythiques de Paris, mais vous êtes surtout venu là et vous venez de la poser sur la table avec une assiette, il y a du poisson je vais dire.
Ouais, du merlu. Du merlu, c'est un merlu, un toast avec pain grillé sur lequel on a pris du merlu qui est cuit, alors soit on a à la maison du merlu qu'on a mangé par le lendemain, le merlu froid, on peut l'émietter, l'effilocher. Et ensuite, on le pose sur le pain grillé avec des tout petits capres, un peu d'huile d'olive, un peu de piquillo saché, des œufs durs hachés, un peu de ciboulette ou de cerfeuil. Mmh. Et ça fait un apéritif.
Ah oui, le petit goût de capre derrière, là, très bien.
Voilà, c'est un très bon capre, des Lilliput, des mini capres, ouais, qui sont excellents.
Merlu, c'est un petit merlan?
Non, ça n'a rien à voir, c'est un autre poisson totalement différent. Des merlus, il y a des petits, ce qu'on appelle en Charente-Maritime, moi je suis charentais, donc il y a les petits qui s'appellent des merluchons, qu'on ne trouve pas en région parisienne au marché. Mais après, ça va jusqu'à un très gros poids, jusqu'à 5, 6, 7 kilos. Alors, il y en a beaucoup dans le sud-ouest, Charente-Maritime, jusqu'au Pays Basque. Les Espagnols en mangent beaucoup, fondu en deux, grillé.
Ouais, j'allais dire, il y a une petite connotation tapas, là.
Voilà, un petit peu, ouais. Et après, c'est un poisson qu'il y a beaucoup également en Argentine.
Excellent, excellent. Et alors, vous êtes venu aussi, on l'a entendu, avec sympathique petite bouteille. Donc, du blanc, plutôt, avec le merlu.
Ouais, un petit avelin qui est très abordable, c'est un muscadet... de bio, de petits producteurs, Maison Bonnet Uto, et qui est plutôt bien fait.
Pas mal, oui.
Ouais, à un prix très abordable, ouais.
C'est bien équilibré.
On a la carte au restaurant, qui est un vin bio, on a pas mal de vin bio également.
Alors, cette excellente tartine à base de merlu, on la déguste notamment l'Alcazar, cœur du quartier Saint-Germain-des-Prés, 62 rue Mazarine. C'est un lieu mythique de Paris.
Qui est une grande brasserie avec une grande verrière, donc c'est un grand volume, un grand espace, qui a été tout redécoré il y a 3 ans et sur lequel on peut aussi bien manger. Ça fait un peu brasserie-auberge. On peut manger aussi bien en table d'hôte, des grandes tables, on peut être une quinzaine. Il y a un bar le soir avec de la musique. Le dimanche, on fait un brunch vegan.
Oui, c'est le nouveau concept. On fait la fête, on mange, on boit l'apéro.
Voilà, il y a tout. Et en plus, le dimanche, on fait un brunch vegan avec Angèle, qui nous donne un coup de main là-dessus et qui a une bonne popularité.
Angèle, précisez.
Angèle qui a la guinguette d'Angèle, ouais.
Voilà. Et ce merlu, allez, j'en reprends une dernière petite bouchée. Merci encore, Guillaume Lutard. C'est très, très bon. C'était La Planche Apéro, signé Guillaume Lutard de l'Alcazar.
Europe 1.
Allez, je me vide la bouche vite pour annoncer bientôt le journal de 19h. Sophie Tussaud, on est en pleine forme.
18h, 20h. François Claus sur Europe 1.
Et après le journal où nous donnerons les grandes tendances de l'information de ce samedi 22 juin, on va revenir, Marlène, sur ce rapport cette semaine étonnant avec l'un de ses auteurs, Cannabis 2. Comment reprendre le contrôle? Comment des économistes ont étudié le phénomène du cannabis? Il n'y a pas d'autre solution si on veut reprendre le contrôle et finalement même du point de vue de la santé, disent-ils, que de légaliser le cannabis, y compris dans son usage récréatif. Donc nous serons avec un des auteurs du rapport pour essayer de comprendre cette philosophie, et nous serons avec le maire d'une commune de Seine-Saint-Denis qui vit au quotidien les ravages à la fois sur le plan des trafics mais aussi sur le plan de la santé du cannabis, et qui a signé, maire UDI, qui a signé l'appel pour qu'on parvienne à cette légalisation. Et puis à partir de 19h30, grande page culture avec Philippe Catherine.
Et n'hésitez pas à réagir en publiant un petit commentaire ou même plusieurs sur Twitter avec le hashtag Europe 1. 19h, bon début de soirée avec nous. Merci de nous écouter. Le journal, Sophie Tussaud, François Claus.
Bonsoir Sophie.
Bonsoir François, bonsoir à tous.
Les grands titres de l'actualité de ce samedi 22 juin.
L'annonce d'une vague de forte chaleur sur la France provoque une ruée vers les climatiseurs. Reportage dans un instant. Grosse mobilisation à Belfort aujourd'hui des salariés de General Electric. Les syndicats appellent Emmanuel Macron à se préoccuper de leur sort. À Paris, les habitants de l'immeuble qui a pris feu ce matin ont respecté les consignes de confinement, ce qui a évité un très lourd bilan. Et puis le Salon du Bourget est ouvert tout le week-end au public et le programme est très riche cette année.
Europe 1. Sophie, on était plutôt habitué à ces phénomènes-là au beau milieu de l'été, vers le mois d'août. Là, c'est une canicule précoce, exceptionnelle, qui va toucher la France dès les prochains jours.
Ah oui, une vague de chaleur sans précédent pour un mois de juin. Il va faire jusqu'à 40 degrés. Et la nuit, le thermomètre ne devrait pas descendre sous les 25 degrés. À Paris, la préfecture a d'ailleurs décidé de déclencher l'alerte canicule de niveau 3 dès lundi. Et pour trouver un peu d'air frais, eh bien les Franciliens ont été nombreux à se ruer dans les magasins aujourd'hui afin d'acheter un ventilateur, Jean-Jacques Herry.
Oui, et même pas besoin de rentrer dans un magasin en fait, pour le constater. J'avais à peine fait quelques pas dans la rue que déjà je croisais Olivier, et de deviner ce qu'il avait sous le bras, Sophie, un ventilateur.
En prévision de la chaleur là, qui s'annonce la semaine prochaine, pour être sûr d'avoir un peu d'air frais dans l'appartement et dormir correctement. C'est la longueur de l'événement qui m'inquiète. Les années précédentes, c'était 2-3 jours. Là, on est plutôt sur 5 à 7 jours. Ça me paraît un peu long de survivre sans air frais.
Ensuite, je me suis rendu dans une enseigne spécialisée dans l'électroménager. Au rayon ventilateur, les vendeurs m'ont parlé de razzia et même de champ de bataille depuis hier. La plupart des références ont en effet disparu du magasin. Rupture de stock, il ne reste plus que deux modèles. Ils s'en vendaient toutes les minutes. Gisèle et Patrick voulaient par exemple un ventilateur sur pied. Ils devront se contenter d'un appareil plus petit.
Pas hyper convaincu, mais au moins, en fait, c'est bête parce que on devient consommateur comme tout le monde. Dès qu'ils disent de la canicule, on court en acheter, c'est bête.
On a un appartement pas prévu pour des grosses chaleurs comme ça. Donc voilà, on essaye de s'équiper sans aller jusqu'à la clim, en espérant qu'on n'ait pas la canicule tout l'été.
Alors tout l'été, sans doute pas, même si nombreux étaient ceux qui se montraient un brin fataliste, me disant « Avec le réchauffement climatique, de toute façon, ça deviendra vite l'habitude. »
Merci Jean-Jacques Herry.
Beaucoup de monde cet après-midi à Belfort pour soutenir les salariés de General Electric.
Oui, alors les salariés, syndicats, habitants et élus ont formé un front uni, selon les mots de Jean-Luc Mélenchon, présent dans le cortège, contre le rouleau compresseur du groupe américain. General Electric envisage de supprimer 1 000 000 d'emplois en France, dont 800 uniquement sur le site de Belfort. Aujourd'hui, donc, la mobilisation était importante, entre 5 à 6 000 personnes selon la police. Une participation dont se félicite Francis Fontana de la CFE-CGC, qui en profite pour lancer un appel à Emmanuel Macron.
Le site industriel d'Alstom, on fête les 140 ans aujourd'hui. Et General Electric nous fait ça. Mais c'est juste indécent. Tout le monde est indigné. C'est l'indignation qui règne là. Et la colère viendra si M. Macron ne fait rien et reste à Paris à aller faire des soirées, très bien, avec Elton John. Mais sa place, elle sera ici à un moment ou à un autre. Il a fait des promesses, il a signé des accords. Il doit venir nous dire qu'il les respectera, qu'il les fera respecter par General Electric. Voilà ce qu'il doit venir faire.
Si ça ne bouge pas, des manifs comme ça, on pourrait en revoir à Belfort.
S'il faut en refaire, on rappellera tous les citoyens, tous les salariés. De toute façon, les salariés, vous savez, ils sont hyper mobilisés.
Le syndicaliste Francis Fontana au micro européen de Théo Manval. Oui. Et dans le cortège à Belfort, il y avait également des gilets jaunes. François, c'était aujourd'hui l'acte 32 de leur mouvement. Des rassemblements ont eu lieu partout en France avec un appel national à manifester à Marseille. Entre 500 et 600 personnes ont défilé dans la cité phocéenne.
Sophie, c'est clair, c'était une opération très complexe à laquelle ont été confrontés les pompiers de Paris cette nuit.
Et oui, en raison de la configuration des lieux, il était 5 heures lorsque le feu s'est déclenché pour une raison inconnue dans un immeuble de 6 étages dans le 11e arrondissement. assainissement. 200 pompiers ont été mobilisés. 3 personnes sont mortes. Une autre se trouve dans un état grave. 27 blessés. Un bilan dramatique, mais qui aurait pu être plus lourd. Les habitants ont respecté les consignes de confinement, ce qui a permis de les sauver. Écoutez la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui s'est rendue sur place tout à l'heure.
Ce qu'il faut aussi adresser comme message dans les messages de prévention, c'est le confinement. Toutes les personnes qui sont sorties saines et sauves sont aussi celles qui sont restées confinées dans leurs appartements en appliquant les consignes que d'ailleurs les pompiers proposent systématiquement, à savoir pouvoir bien tout fermer, mettre des linges mouillés autour des portes et permettre ainsi d'attendre l'arrivée des secours. Et donc c'est aussi ce message de prévention qu'il nous faudra porter. Les personnes qui sont restées dans le confinement, même si c'est terrible d'attendre dans le confinement, d'autant que les secours sont arrivés tôt, mais pour progresser c'était très très compliqué. Ils ont sauvé beaucoup de vies encore aujourd'hui.
Anne Hidalgo, la maire de Paris, au micro européen de Romain Noquet. Dans l'actualité internationale, l'Iran hausse le ton après que les États-Unis ont failli lancer des frappes dans le pays. L'armée iranienne prévient qu'en cas d'attaque contre son territoire, il y aura des conséquences dévastatrices pour les intérêts américains de la région. Donald Trump, de son côté, assure aujourd'hui que si l'Iran abandonne le nucléaire, il sera alors son meilleur ami.
Europe 1.
Dans un instant, la 3e édition de la Journée nationale des blessés. C'est l'armée de terre qui l'organise. Il y a des blessures apparentes. Il y a aussi les blessures plus profondes, douloureuses, difficiles à cicatriser. On en parle dans un instant.
Les 19h08, la suite du journal sur Europe 1. Sophie Tussaud, François Claus.
Ne pas oublier, venir en aide aux soldats de notre armée qui se battent sur les terrains du monde entier. Se tenait aujourd'hui, Sophie, pour la 3e année consécutive, la Journée nationale des blessés de l'armée.
Oui, des points de rencontre et d'échanges ont été organisés partout en France. À Paris, c'était dans un cadre apaisant, dans un parc du 15e arrondissement. Justin Morin, vous avez assisté à cette journée pour Europe 1 et contrairement à ce que l'on pourrait croire, les grandes blessures de guerre ne sont pas toujours apparentes.
Physiquement, Rémi a tout du militaire, la coupe, la carrure, les tatouages. Moins habituel, la balle en mousse qu'il malaxe maladivement en racontant son histoire. C'était en 2013. En Centrafrique, ce soldat se fait attaquer par un homme armé. Il se retrouve à quelques mètres de lui.
Et en fait, il s'est retourné, il a voulu me tirer dessus. Son arme s'est enrayée. J'ai voulu riposter, la mienne s'est enrayée aussi. Et c'est un collègue à moi qui a pris le relais.
À son retour, quelque chose ne va pas.
Moi, j'ai fini par boire. Et vu que c'est une blessure psychique, j'essaie de me bagarrer pour qu'on voie en fait, que j'ai des cocards, que je sois blessé par-ci par-là pour que les gens me posent des questions en me disant bah, qu'est-ce qui t'est arrivé. On a des comportements pas comme n'importe quel humain quoi. On est super vigilant, on s'énerve pour rien, on se renferme énormément. Voilà, quoi, c'est un peu compliqué quoi. En fait, je vais petit à petit mais je me reconstruis.
On lui diagnostique un syndrome post-traumatique. Il est aujourd'hui soigné à l'hôpital militaire de Bordeaux, mais il peine à s'en remettre. La cellule d'aide aux blessés de l'armée de terre l'aide au quotidien dans ses démarches administratives. Les 3/4 des 1200 soldats accompagnés sont des blessés psychiques, selon Delphine, l'une des référentes.
Quand ils arrivent chez nous, ils se sentent abandonnés par l'institution. Donc nous, on est là pour refaire vraiment le lien avec l'institution en leur disant bah non, vous n'êtes pas abandonnés. Il y a eu peut-être un petit moment de flou, mais maintenant, voilà, on vous prend en compte, on vous suit.
Avec l'objectif d'une réinsertion une fois guérie, 90% des blessés psychiques suivis par la cellule d'aide retrouvent un emploi dans le civil.
Justin Morin pour Europe 1.
Et si vous ne savez pas quoi faire pour vous envoyer en l'air, et ben il vous reste une journée pour découvrir les plus beaux engins de l'aéronautique.
Oui, 300 000 personnes sont attendues au salon du Bourget jusqu'à demain soir. Et le programme est riche, Aurélien Fleureau.
Les démonstrations aériennes restent les moments qui rassemblent le plus de public. Rafale, Patrouille de France, Falcon, mais les visiteurs n'ont pas toujours la tête en l'air. Dans le Paris Air Lab, le rendez-vous des innovations, la réalité virtuelle permet par exemple de voler dans la peau d'un dinosaure, le ptérodactyle, et c'est ce que vient de faire Lucas.
Les sensations sont bien représentées avec le ventilateur qui nous tourne en face. Dès qu'on plonge, on sent l'accélération et tout ça. Donc c'est...
Et l'impression de voler, ça donne quoi alors?
On se sent libre et tout, on fait ce qu'on veut, c'est bien.
Des expériences ludiques. Donc, mais si Lucas, qui est lycéen, a envie plus tard de travailler dans ce secteur, il pourra passer par l'avion des métiers. 15 000 postes à pourvoir cette année, des métiers qui évoluent, explique Philippe Darmaillan, président de l'UIMM, la Fédération de la Métallurgie.
Il y a pendant ce week-end des familles qui vont venir et donc elles vont pouvoir, en parcourant cela, voir
que pour faire voler ces avions, eh bien la France est capable d'inventer ses métiers du futur et ses nouvelles situations de travail.
Et pour continuer la visite, eh bien vous avez le choix entre vous promener à l'intérieur du Concorde ou vous arrêter devant la maquette tout en Lego du vaisseau spatial X-Wing Starfighter de Star Wars, réalisé avec 1,5 million de petites briques en plastique.
C'était Aurélien Fleureau, Salon du Bourget pour Europe 1.
Merci Sophie Tussaud, on se retrouve à 20h.
Bonne fin de journée sur Europe 1, il est 19h12.
Elena Mornar, profitons de ce dimanche qui va encore être assez agréable avant les températures caniculaires.
Oui, il faut profiter de ce dimanche agréable. Retour du soleil à l'ouest après les derniers orages qui tonnent encore en ce moment sur l'arrière-pays provençal. Demain, c'est fini. Voilà le soleil sur l'ensemble du pays. Allez, un ciel voilé, mais toujours lumineux. Un peu moins beau, c'est vrai, sur la Bretagne et les bords de Manche, avec quelques gouttes en matinée sur le Finistère et des nuages l'après-midi entre la Bretagne et le Nord-Pas-de-Calais. Les températures, elles seront bien agréables sous les nuages, avec 21 à 25 degrés de Cherbourg à Brest, 27 à Caen et Dunkerque, comme à Biarritz et Perpignan d'ailleurs. Et puis après, ça monte. 29 à Strasbourg, 30 à Lille, à Colmar et Marseille, 31 à Nantes, Bourges, Lyon et Grenoble, 32 pour Paris, Tours, Bordeaux, Pau ou encore à Auxerre, 33 à Toulouse et Avignon et 35 déjà à Cahors demain après-midi ou encore à Agen. Cette canicule inédite par sa précocité et son intensité est partie pour durer au moins jusqu'à samedi. Toute la France sera concernée, le pic de chaleur étant attendu jeudi et vendredi.
C'est noté, merci Elena.
Le journal des sports.
Rebonsoir Christophe Lamarre.
Rebonsoir François.
Coupe du monde de foot, les choses sérieuses commencent, les huitièmes de finale et on va connaître les deux premiers qualifiés normalement ce soir.
Oui, l'Allemagne est tout proche d'être la première qualifiée pour les quarts de finale puisque les Allemandes mènent 3-0 face au Nigeria alors qu'il reste un petit peu moins de 10 minutes à jouer. Le deuxième match de ces huitièmes de finale aura lieu ce soir à 21h entre la Norvège et l'Australie et pendant ce temps-là, les Bleus poursuivent leur préparation du côté du Havre. Les Françaises affronteront le Brésil demain soir. Les joueuses ont profité de ce temps de préparation supplémentaire pour faire relâche. Il n'y a pas que le foot dans la vie, n'est-ce pas?
C'est clair que d'avoir un peu de temps libre pour soi, ça nous permet de penser à autre chose, de s'aérer l'esprit. Donc c'est toujours bien, on a profité, on a fait du shopping, mangé entre copines. Donc certaines ont pu voir leur famille, donc c'était plutôt positif.
Aïssa Toutounkara, la défenseuse française au micro de Simon Rubin. Le huitième de finale France-Brésil demain soir au Havre, coup d'envoi à 21h, à suivre bien sûr en direct et en intégralité sur Europe 1.
La Formule 1 avec le Grand Prix de France sur le circuit du Castellet, Hamilton devant, les Français dans les choux, pas de surprise.
Effectivement, pas de surprise, la 86e pole pour le Britannique, intouchable au volant de sa Mercedes. Son coéquipier Valtteri Bottas signe le deuxième temps. Les Ferrari ne sont pas loin sur la grille, Charles Leclerc s'élancera en troisième position, mais il rend déjà 6 dixièmes aux flèches d'argent. Quant aux Français, Renault n'a pas vraiment brillé. Et côté pilote, Pierre Gasly signe le sixième temps sur sa Red Bull. Le Français était un peu ronchon, rien n'allait vraiment. La pression de courir à domicile, peut-être pas du tout, dit-il.
Bon, moi, ça donne vraiment plus d'énergie. C'est sûr que c'est un plaisir de pouvoir rouler en France, sachant qu'on n'a pas eu le Grand Prix de France pendant de nombreuses années. Donc non, c'est vraiment, vraiment une bonne chose. Et puis après, bon, aujourd'hui, on était performant. J'ai un plutôt bon feeling avec la voiture. On a décidé de faire des changements pour la qualif. Qui ont rendu la vie plus compliquée. Je suis un peu déçu, mais bon, va falloir travailler, se bagarrer demain pour remonter.
Pierre Gasly au micro d'Axel May, départ du Grand Prix de France demain à 15h10.
Dans l'actualité sportive de ce samedi, du rugby, de l'escrime, du vélo.
Hey, tout ça, pour vous, on parlait Coupe du Monde, c'est bien sûr l'époque qui veut ça. Après le football, le rugby, en attendant les grands, les moins de 20 ans disputent la finale ce soir de la Coupe du Monde, France-Australie à 20h30. Un succès tricolore serait peut-être la promesse de lendemain qui chante. Pas de médaille française au dernier jour des championnats d'Europe d'escrime à Düsseldorf. Dommage, on avait fini par s'y habituer. Les épéistes féminines finissent au pied du podium, mais le bilan final est excellent. 8 médailles, 2 en or, 3 en argent et 3 en bronze. Et puis enfin le cyclisme. Egan Bernal a peut-être assuré sa victoire finale avant même la dernière étape du Tour de Suisse. Demain, le Colombien termine 11e du contre-la-montre, remporté par le Belge Yves Lampaert.
Merci Christophe Lamarre. N'oubliez pas, dans 3 quarts d'heure maintenant, Lionel Rousseau, le sport sur Europe 1.
Europe 1.
En attendant, c'est pas vraiment du sport, mais on va parler du cannabis et de ce rapport qui nous a étonnés. Comment reprendre le contrôle? Eh bien, une seule réponse, légaliser.
Jusqu'à 20h, vous écoutez François Claus, c'est votre grand journal du soir sur Europe 1.
Et on va surtout écouter Pierre-Yves Joffard. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez été au cœur de l'actualité aujourd'hui parce que vous êtes le co-auteur de ce rapport sur le cannabis. Vous êtes économiste, membre du Conseil d'analyse économique. Cannabis, comment reprendre le contrôle? Et le constat, il est d'entrée énoncé, 50 ans d'échec de politique de prohibition, la légalisation du cannabis, dites-vous, récréatif, on est bien d'accord, on n'est pas seulement dans le cannabis, parce qu'il y a débat également thérapeutique, le cannabis strictement encadré permet à la fois, dites-vous, de lutter contre le crime organisé, de restreindre l'accès aux produits pour les plus jeunes et de développer un secteur économique qui est créateur d'emplois et de recettes fiscales. Ce rapport marque une date parce qu'on était jusqu'à maintenant sur cette question de la légalisation dans des propos militants, de journalistes, de gens de gauche. Vous apportez des chiffres et un travail très, très étayé. Combien de temps vous avez travaillé sur ce dossier, Pierre-Yves Joffard ?
Alors, on a commencé à travailler sur ce projet, je dirais, en octobre. Voilà. Donc, il y a du tout un travail de compilation de la littérature académique, c'est-à-dire ce que racontent un peu
les chercheurs. Et d'enquête sur les expériences menées ailleurs.
Voilà, exactement. Ce qui est intéressant, c'est que depuis quelques années, on commence à avoir des retours d'expérience des différents pays qui se sont engagés dans la légalisation. Et là où c'est passionnant pour nous, chercheurs, c'est que chaque État, chaque pays le fait avec des modalités différentes. Et donc, on peut voir un peu ce qui marche et ce qui ne marche pas.
Alors, il était commandité par qui, ce rapport ? Parce que vous travaillez habituellement pour Matignon. Alors, le Conseil d'analyse économique.
Je ne suis pas membre du Conseil d'analyse économique, mais le Conseil d'analyse économique est placé effectivement auprès de Matignon, mais peut avoir l'initiative de sujets dont il estime qu'il est important d'éclairer Matignon et Bercy.
Et d'animer le débat national.
Et d'animer le débat, et de contribuer au débat sur des sujets qui vont de toute façon être dans un débat. Et donc c'est important également d'éclairer le débat par ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas aussi, hein, mais ce qu'on sait, voilà, c'est un peu un point sur que nous apprennent les expériences internationales sur le sujet.
Et pourtant, le jour où votre rapport est publié, Matignon annonce directement qu'il est hors de question de légaliser le cannabis. Il n'y a pas un côté un petit peu déprimant à avoir travaillé pendant 6 mois sur cette réflexion, vous étayez un argumentaire, vous dites non, on ne va pas légaliser.
Je crois que personne ne pensait que le gouvernement allait immédiatement dire « c'est une très bonne idée, allons-y ». Non, c'est pas ça. Je crois que ce qu'on veut, c'est nourrir le débat, contribuer à ce que le débat s'installe sur une base la plus factuelle possible. Ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de parlementaires sont très intéressés par
Il y a eu une proposition de loi qui a été avec des parlementaires de plusieurs bords, et notamment de la majorité aussi, voire quelques maires de droite, à Châteauroux, notamment, qui disent oui, il faut aller dans ce sens-là, donc le débat est lancé. Vous comprenez ces blocages au niveau des mentalités, alors que vous amenez des chiffres quand même. Hein. Vous nous dites 41 000 personnes meurent de l'alcool chaque année, 73 000 du tabac. Le cannabis, il faut le dédiaboliser.
Oui, alors vous savez, dès qu'on est quand on va le plus près du terrain, les élus locaux, territoriaux, les intervenants de terrain sont en général beaucoup plus ouverts aux réflexions et en tout cas constatent que la situation actuelle est un désastre et donc ne s'en accommodent pas. Ils disent qu'il faut absolument changer par rapport aux politiques qui ont montré leur inefficacité.
Alors justement, cette situation locale, on voulait l'évoquer avant de vous redonner la parole et de développer l'argumentaire, et nous sommes heureux d'accueillir au téléphone M. Ludovic Taureau. Bonsoir monsieur. Vous êtes maire UDI de Coubron, en Seine-Saint-Denis. Vous êtes également médecin et vous dites, comme ce rapport, votre expérience de terrain, et vous pouvez nous la raconter. Pourquoi vous nous dites qu'il faut aller dans ce sens-là ?
Alors, il y a plusieurs choses. Je suis aussi conseiller régional. Et en fait, depuis 2 ans, on a monté une commission. On a fait à peu près le même travail. On a interviewé des gens, des médecins, des consommateurs, des vendeurs, des policiers municipaux, nationaux. Et en effet, on va sortir un rapport d'ici 2 mois qui est en fait un rapport qui va mettre tous ces témoignages et surtout où il y a tous les groupes politiques de l'Assemblée régionale qui ont participé, du Parti communiste au RN. Et nous devrions sortir des propositions d'ici 1 mois. Quant à la première question que vous me posez, bien évidemment, maintenant ça suffit, je veux dire. Médicalement, il faut qu'on arrête. On est dans l'échec médical. Il faut tout resituer au niveau santé publique et arrêter de parler de justice, de loi et d'emprisonnement qu'on n'applique pas. Aujourd'hui, nos enfants et les adultes sont en danger médical. Il faut agir.
Et à côté de ça, vous avez des gens qui vous disent « je vois, moi, les ravages que font le cannabis, pourquoi le légaliser alors que ça fait des ravages ?»
Mais de toute façon, aujourd'hui, on a essayé une chose en France. On est l'un des pays d'Europe les plus durs en législation et ça ne marche pas. C'est-à-dire que tous les médecins, tous les addictologues reçoivent chez eux des jeunes qui fument et des jeunes qui, même des plus vieux, je veux dire, on a tous autour de nous des gens qui fument, qui sont même des sportifs, qui sont des Ça touche tous les âges, donc il faut arrêter. Et on n'a pas empêché la vente. Et on n'a pas empêché la consommation. Donc à un moment, comme on le disait, il va falloir se réunir et en parler. On ne peut pas rester le seul pays d'Europe à ne pas bouger.
Monsieur Taureau, vous êtes médecin. Sur le plan médical, il y a évidemment le débat en fonction du taux de THC du cannabis notamment. Vous nous dites, on peut contrôler.
Oui, parce que le taux de THC, c'est ça le piège. On ne contrôle pas le taux de THC de cannabis parce qu'il a été multiplié par 6 en 30 ans. Et c'est le THC qui pose problème en fait. Et plus on va l'augmenter, plus la personne qui va consommer va être dépendante et plus elle va un peu lâcher pied avec le réel. Donc tout ça, plus ça va, plus cette drogue, je dirais, est dangereuse. Donc il va falloir un moment arrêter. Les enfants décrochent, les adultes aussi décrochent. Combien de personnes fument un joint tous les soirs? Il n'y en a pas. Il y a 700 000 consommateurs en France tous les jours, quotidiens, tous les jours. Mais il faut bien qu'ils... c'est pas parce qu'on a mis une amende de 200 euros qu'ils vont arrêter de fumer. Ça fait 20 ans qu'ils fument.
Pierre-Yves Joffard, vos propositions sont radicales. Vous nous dites qu'il faut un bureau de joint au coin de la rue où on vendra le gramme d'herbe à 9 euros. Là, il vaut 11 sur le marché à peu près aujourd'hui. Et ce sera contrôlé, ce sera interdit aux mineurs et ça permettra d'éradiquer le trafic et finalement de mieux contrôler, disais-je, la consommation.
Oui, je crois que sur les prix qu'on propose, la réflexion, c'est une hypothèse parmi d'autres. Mais ce qui est important... c'est effectivement de restreindre, de faire tout ce qu'on peut pour lutter contre l'accès à ce produit par les plus jeunes. Je crois que le cannabis est un produit qui est particulièrement néfaste aux âges précoces. Il nuit au développement cérébral, il nuit aux capacités d'apprentissage, à la concentration, à la mémoire. Et donc, dans toutes les phases d'apprentissage, c'est vraiment ça qu'il faut. En revanche, aux âges adultes, une consommation modérée ne pose pas de problème de santé, beaucoup moins que le tabac. Enfin, elle peut poser des problèmes lorsque le cannabis est consommé avec du tabac, mais là, ce sont les problèmes liés au tabac et à la combustion. Et ça, on sait qu'il faut également l'échapper, mais l'éviter. Mais
on sait également, et M. Taureau au téléphone pourrait, j'imagine, le confirmer, que le cannabis, c'est aussi l'économie souterraine de quartiers entiers en France. Vous les privez de cette économie-là, et le risque... là aussi, en termes d'embrasement social, est grand. Oui, M. Taureau.
Oui, mais on ne peut pas marcher comme ça. C'est-à-dire, on ne peut pas dire on va laisser les choses avancer parce qu'on a peur de la personne qui aura la loi. Sinon, la République n'existe pas. Les gens qui sont hors la loi sont hors la loi et il faut les empêcher d'être hors la loi. Il ne faut pas avoir peur de leur réaction.
Oui, mais vous avez montré que c'était impossible de le faire, là, aujourd'hui, qu'il y avait une impuissance.
Alors, aujourd'hui, moi, ce que je dis, dès qu'on parle de cannabis, et c'est vrai, tout le monde se braque. Tout le monde dit on veut légaliser. On en est loin, très très loin. C'est-à-dire que l'étude qu'on nous a montrée, celle que je vais procurer, dit qu'il ne faut pas partir d'emblée comme ça. Il faut déjà se réunir, en parler, et pourquoi pas, moi je peux vous dévoiler déjà une des propositions que je ferai, c'est qu'à partir de 20 ans, on dépénalise. Je dis bien, on ne légalise pas, on dépénalise. Pourquoi à partir de 21 ans? Parce que déjà le cerveau est plus ou moins formé, d'accord? Et comme disait votre interlocuteur, il y a... Avant, si vous voulez, le cerveau est très fragile, les enfants sont en scolarité, et il faut commencer par des petites choses. Si d'emblée on part sur la légalisation, comme vous le dites, au niveau du gouvernement, ça va bloquer, parce qu'il y a des intérêts politiques, donc on n'avancera pas. Il est grand temps au moins de se réunir autour d'une table, et surtout de laisser parler les médecins. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un problème de santé publique, et ce n'est plus un problème juridique.
On l'a compris. Merci de votre témoignage, Ludovic Taureau. On aurait aimé évidemment aller plus loin. Vous avancez quelques chiffres. 500 tonnes par an aujourd'hui de cannabis.
Oui, là aussi, les estimations sont très imprécises, difficiles, parce que ça repose sur des déclarations. Et comme il s'agit d'un produit illicite, on peut supposer que les gens ne déclarent pas nécessairement ce qu'ils consomment. Malgré tout,
on pourrait en produire donc avec des salariés contrôlés.
Les capacités de production en France sont là. La France est un grand pays agricole, à la fois autant en métropole que dans les départements ultramarins. C'est une plante qui se cultive assez facilement. Et la France est le troisième pays mondial producteur du chanvre. C'est la même plante.
Et c'est là où on fait pousser le cannabis. Combien d'emplois? Combien de gains?
On estime entre 50 et 80 000 emplois le potentiel de la filière. Encore une fois, ça peut être très au-dessus, ça peut être en dessous également. Ce sont vraiment des estimations, je dirais, qui essayent d'extrapoler ce qu'on constate à l'étranger. À l'étranger, ce sont des recettes fiscales, des emplois créés, mais surtout, c'est une baisse de la consommation chez les plus jeunes lorsque l'interdiction de la vente aux mineurs est respectée. Et ça, c'est vraiment les leçons qui se dégagent du Canada, etc. Et c'est vraiment ce point-là qui est important.
Merci beaucoup d'être venu nous éclairer très factuellement de ce rapport, M. Joffard. Et bonne continuation. Le débat est lancé. Merci à M. Taureau de nous avoir accompagnés. Dans un instant, notre invité culture. On ira vers le Louxor, dans le Grand Bain, Philippe Catherine.
19h31, la suite de votre grand journal du soir. François Clos.
L'heure de notre page culture et cet homme que nous allons recevoir. Nous avons bu des bières au Louxor avec lui, il nous a plongé dans le Grand Bain. Il nous a fait même aimer une improbable équipe de football en noir et rouge. Vous l'avez sûrement reconnu, monsieur Philippe Catherine, bonjour.
Bonjour, à votre service.
On est heureux de vous recevoir sur Europe 1 ce soir.
Merci.
Vous êtes à l'affiche d'un film que j'ai trouvé merveilleux, qui m'a fait rire, qui parle de mon époque aussi, qui s'appelle Yves, signé Benoît Forgeard. Oui. Si vous devez parler de Yves, vous dites c'est qui Yves ?
Bien Yves, contrairement aux apparences, c'est un prénom utilisé pour les hommes. On en a connu des Yves, Yves Saint-Laurent, Yves Montrouzy.
Yves Montand.
Yves Montand, effectivement. Et là, ce prénom est attribué à un frigo. Intelligent.
Et qui va devenir de plus en plus intelligent.
Qui va quand même, oui c'est ça, progresser dans ses facultés, avec les risques que ça encourt, hein, bien sûr.
Alors on va revenir évidemment sur ce film que je vous conseille d'ores et déjà d'aller voir, et Mathieu Charrier, monsieur cinéma, de reprendre la vue, puisque le film était en clôture de la quinzaine des réalisateurs à Cannes. Il est signé Benoît Forgeard, à qui on doit notamment Gaz de France, comédie déjà remarquée. Et vous l'avez compris, c'est un film décalé, c'est un film délicieux, aussi. Je suis heureux, Philippe Catherine, de vous présenter la bande culture d'Europe 1 qui est dans ce studio. Madame Diane Chénouda, bonjour.
Bonjour François, bonjour à tous. Bonjour Philippe. Bonjour.
Elle nous fait visiter les expositions. Et vous d'ailleurs, le dessin, c'est aussi une de vos passions.
Oui, oui.
Comment vous faites pour tout faire, du film, de la chanson, du dessin?
Bon, je ne peux pas tout faire en même temps. Je sais faire qu'une chose en même temps, comme sont la plupart des hommes. Mais j'adore dessiner depuis que je suis tout petit. Je ne me suis jamais arrêté, vraiment.
Et on va pouvoir voir vos dessins bientôt.
Oui, enfin, c'est-à-dire que j'ai fait quelques livres et puis un spectacle aussi où j'utilise mes dessins qui s'appelle « Ce que je sais de la mort et de l'amour ».
Eh bien, on vous demandera ce que vous en savez parce qu'on se pose beaucoup de questions, nous aussi, ici.
Je peux vous répondre.
À vos côtés, Vanessa Zah qui nous fait voyager, qui nous emmènera dans une région qui vous est chère tout à l'heure. Bonjour Vanessa.
Bonjour François, bonjour à tous. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Et puis en face de vous, monsieur cinéma, Mathieu Charrier.
Bonjour, bonjour.
Vous avez vu Yves à Cannes.
J'ai vu Yves. Alors vous en avez dit trop peu sur Yves quand même. Parce qu'effectivement, c'est un frigo intelligent, mais qui va nouer une relation avec William Lebguil au départ, qui est une sorte de rappeur raté. Vous êtes son agent, vous. Et c'est cet échange entre les deux hommes qui va être intéressant. D'ailleurs, je dis entre les deux hommes, c'est un lapsus, mais parce que le frigo prend tellement la place d'un humain avec une espèce de pseudo-intelligence artificielle.
Oui. Il devient le personnage du film.
Exactement, il devient le personnage principal.
Il va jusqu'à faire l'amour même.
Oui, c'est pas encore le cas, hein, mais c'est un robot qui ressent des sentiments. Alors pour l'instant, on est épargné par ça, hein, mais ça nous pend au nez. Et on devra bientôt se paxer avec des robots, des ordinateurs. On aura peut-être des enfants avec eux.
J'ai lu une phrase du réalisateur là, qui reprend l'histoire, qui dit « Attention, les robots, il ne faut pas qu'ils deviennent très intelligents, trop intelligents, parce que sinon, ils ne vont plus rien foutre.
»
qui résume assez bien l'esprit du film. Ce film nous emmène, évidemment, on l'a compris, dans le domaine de l'intelligence artificielle de notre monde d'aujourd'hui. Il y a une bande-son, d'ailleurs, formidable, puisque le personnage est un rappeur. Je vous propose, allez, ça s'appelle Crab. « Carrément, rien à branler. » Alors le rappeur William Lebguil, il rame un peu à écrire ses textes, là, et puis tout d'un coup le frigo lui donne un coup de main.
Oui, c'est-à-dire que là ce qu'on entend c'est la version remixée, remixée par le frigo, hein, qui a un avis sur ce que fait son poulain. Il remixe le morceau qui finit par marcher très fort.
Oui, parce qu'il a un avis, mais il a surtout en lui tellement de données et de techniques que lui reprend la chanson, il met tout ce qu'il faut dedans pour que ça marche en fait. Parce que comme il a cette intelligence suprême, bah, il peut dire que ça va marcher si tu le transformes comme ça. C'est ça qui fait peur.
Voilà, à force de calcul, il arrive à un hit. C'est affreux, mais enfin, ça existe déjà. Hein,
on ne va pas vous en révéler, mais il y a une scène exceptionnelle de concours de l'Eurovision où les chanteurs sont remplacés par des robots intelligents. Je n'en dis pas plus parce qu'il faut évidemment aller voir le film. Vous l'avez compris, nous sommes avec Philippe Catherine pour parler de Yves qui sort mercredi. Mercredi, il y a également à l'affiche un autre film. On aurait pu d'ailleurs y voir Philippe Catherine dans le rôle. Vous allez, Mathieu Charrier, nous faire découvrir cette semaine Le Dain.
Oui, Le Dain qui est sorti mercredi dernier. Alors Philippe Catherine, j'imagine que vous connaissez, que vous aimez l'univers de Quentin Dupieux. Vous
n'avez
pas encore tourné avec lui, je crois.
Non.
Ce serait une envie.
Ah bah bien sûr, je veux dire, si il me fait un clin d'œil, je réponds bouche bée.
Parce que c'est vrai que Philippe Catherine dans l'univers de Quentin Dupieux, on aimerait bien voir ça. Alors là, le Dain, je vous résume l'histoire pour nos auditeurs. Jean Dujardin joue Georges, 44 ans. On comprend au début du film qu'il vient de tout plaquer, le volant de sa petite voiture, direction le domicile d'un homme à qui il achète un manteau en Dain, tout simplement, avec des petites franges. Il paie assez cher, hein, le manteau, faut bien le dire, plusieurs milliers d'euros, cash avec ses économies, et il repart s'installer dans une chambre d'hôtel. Sauf que... Mais petit à petit, ce manteau, sans trop vous en dire, va devenir comme une seconde peau pour lui, va presque lui donner des super pouvoirs, ou en tout cas, il va le désinhiber, et puis il va prendre possession de Georges, c'est-à-dire que Georges n'a alors plus qu'une idée en tête, supprimer de la surface de la Terre tous les autres blousons, en tuant évidemment au passage leur propriétaire, Georges qui est donc campé par Jean Dujardin.
Il y a un espèce de gros fantasme, parfois assez réservé aux hommes, l'envie de se barrer, l'envie de tout plaquer, et pourquoi pas d'aller s'acheter un blouson en Dain et de s'enfermer dans une chambre d'hôtel. Et ensuite... Si tu veux avoir ce blouson minable et te prendre pour un caïd, t'as le droit. Si tu veux qu'il ait un super pouvoir, t'as le droit. On est dans une espèce de régression, mais pas enfantine, une régression plutôt animale.
Voilà, une régression filmée aussi, puisqu'en parallèle, Georges filme ses actes, aidé par une complice formidable qui est jouée par Adèle Haenel. Et donc voilà, tout ça nous donne une espèce de film un petit peu bizarroïde.
Et qui se rapproche de l'univers un peu d'aujourd'hui, mais tellement délirant du film Yves qu'on évoquait à l'instant.
Oui, c'est ces films qui nous interrogent quand même sur une époque, même si...
Absolument, il y a ce créneau aujourd'hui de ce type de comédie qui se développe. Hein. On pense au film de Salvadori, En Liberté aussi, au film de Noémie Lvovsky. C'est clairement une nouvelle tendance dans le cinéma. Et donc, il faut aller voir ce Mathieu genre de film.
Il faut aller le voir. Alors, c'est vrai qu'aussi, il faut le prendre pour ce qu'il est, hein. C'est-à-dire un bon moment de divertissement. Ça dure 1h17, rien de plus. Ce moment, on aime bien donner des sens, parfois sociétaux, films, alors chacun y trouvera son message derrière, mais là c'est pas une grande réflexion sur la société, en tout cas Quentin Dupieux il veut pas le présenter comme ça, il dit que c'est avant tout un grand délire.
Je me sens complètement sain et pas du tout, j'aimerais pas faire du mal à qui que ce soit. Après c'est un film, c'est-à-dire que on aime toujours relier ça à la vraie vie, mais il faut pas oublier que c'est un film, c'est-à-dire qu'on peut parler d'un mec qui chavire et qui se met effectivement à zigouiller des mecs avec une palle de ventilateur, mais c'est rigolo, enfin, voilà, ça peut être divertissant. C'est l'avantage du cinéma.
Voilà, donc je vous le dis, je le dis à nos auditeurs, il faut d'abord aller voir la bande-annonce, parce que Quentin Dupieux, c'est un univers particulier que moi j'adore, mais il faut savoir ce qu'on va voir. Si vous y retrouvez votre compte, foncez voir le film, vous allez passer 1h15 formidable.
Philippe Catherine, il y a un mot qui ne vous a peut-être pas plu dans ce qu'a dit notre ami, le délire. J'ai lu une interview de vous dans Le Point, vous dites, si on me propose un délire, je gifle, moi. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Le délire, vous l'avez en vous, c'est ça? Ça ne se crée pas, ça ne
Oui,
se...
délire, bon non, c'est pas... C'est-à-dire que si on ne peut pas attribuer ça, mais après, par exemple au film de Yves, je pense que de Benoît Forgeat. On parlait de Quentin Dupieux, mais ils ont un point commun, ces deux-là, c'est que ce sont, pour moi, deux génies.
Qu'est-ce que vous appelez un génie?
C'est-à-dire des gens qui seront là à 60 ans, qui sont en train de redéfinir les lignes du cinéma actuel.
Et puis des gens
actuel.
qui captent
ce qu'elle a aujourd'hui, la société. Donc, donc le génie, c'est aussi de l'extralucidité. Donc dans l'extralucidité, ce qui peut être un délire, mais on n'est pas du tout dans la folie. D'autant plus chez Benoît Forgeat, je trouve.
Oui, parce que Yves est encore plus ancré dans
C'est une réalité, mais qui est saturée, hein, si on veut. Donc,
mais c'est presque du Philippe Catherine, en fait, ce que vous venez de dire.
Bon, écoutez...
on est à la radio, mais il a rougi. Allez, on marque une courte pause, vous l'avez compris. On est avec Philippe Catherine pour parler de la sortie de Yves. A tout de suite.
19h40, on retrouve François Claus pour la suite de votre grand journal du soir sur Europe 1.
La page culture d'Europe 1, vous l'avez compris, nous sommes avec Philippe Catherine aujourd'hui, qui interprète un producteur et un copain d'ailleurs du rappeur William Lebgill, qui joue dans le film Yves. On peut citer également les deux actrices qui sont excellentes, Doria Tillier et Alka Balbir, dans ce film signé Benoît Forgeat. Vous l'avez compris, le héros, c'est un frigo, mais un frigo intelligent et qui va créer des situations à la fois cocasses et également de réflexion. Ces rôles, Philippe Catherine, on a l'impression qu'ils sont dessinés pour vous. Comment vous allez les puiser, les chercher? Qu'est-ce qui vous fait choisir?
Bon, ben Benoît Forgeat, il n'y avait pas photo. J'avais tourné dans Gaz de France, j'étais président de la République.
Oui, on s'en souvient.
Quel souvenir pour moi. Donc, je n'ai pas hésité une seule seconde. Après, c'est je choisis, disons... des choses qui me surprennent, que je n'ai jamais fait, surtout. Hein, je travaille avec un manager régulièrement, qui s'appelle Alain Gack, mais je ne me suis jamais mis dans sa peau de manager. C'était l'occasion pour moi. Ce sont des expériences comme ça, de sortir de soi-même, qui m'attirent le plus.
Qui vous attire, et c'est ce rapport au personnage que vous entretenez, qui fait peut-être de vous un personnage singulier dans notre environnement, qui nous accompagne depuis maintenant un quart de siècle. Vous vous souvenez sûrement, au mois de février dernier, vous rendiez hommage à un certain Titi.
J'envoie ce César à Thierry. Alors Thierry, c'est le personnage
que j'ai eu l'honneur d'incarner dans le film. Thierry, peut-être tu dois nous regarder à la télé, dans ton appartement attenant à la piscine municipale. Et ça me fait bien plaisir. Salut Thierry. Et écoute, c'est pour toi, parce que toi qui aimes les sucreries, qui aimes Julien Clerc, n'y voyez pas d'analogie, toi qui as un relatif succès avec les femmes, toi Thierry, qui quand tu parles, on ne t'écoute pas, on se moque souvent de toi un peu facilement. Je me suis reconnu en toi et j'espère que tu t'es un peu reconnu en moi.
Voilà, c'était évidemment la nuit des Césars avec ce formidable moment. Vous aviez préparé ce texte, vous venez de recevoir le César du meilleur acteur dans un second rôle. Vous étiez au milieu d'une galaxie, une pléiade de tout ce qui se fait de mieux quasiment dans le cinéma d'acteurs français. Vous êtes là sur scène, vous aviez préparé ce texte ou vous vous êtes dit « bon, je me lance ».
J'étais sur un mototaxi, c'est la première fois que j'en prenais de ma vie en plus pour aller à cette cérémonie. J'étais déjà très ému par la situation. Je serrais cet homme inconnu.
Ça, je sens que ça va faire un titre bientôt. Hein.
Sur ma moto, dans mes bras, ses hanches généreuses, je m'en souviens. Et j'ai pensé sur
donc la soirée moto... partait bien, sur bonne base. Oui,
en toute sécurité. Et puis j'ai pensé directement à Thierry dans Le Grand Bain, parce que, évidemment, je ne pense pas qu'il y ait d'acteurs, il y a surtout des personnages. Moi, c'est ma théorie. Après, on se glisse dans un personnage, mais les acteurs, ça reste tout à fait secondaire. Imaginons, par exemple, dans le film du Grand Bain, que j'aurais joué le rôle de Canet, hein, Guillaume Canet, qui est un rôle d'homme presque antipathique, le rôle. J'aurais joué ce rôle, sûrement je l'aurais mal fait, mais enfin, certainement que j'aurais pas eu le César, parce que Thierry, c'est pour ça que je lui rendais hommage. Disons qu'il provoque une sympathie immédiate. Voilà,
vous jouez les armes. Parce que
c'est ce que j'ai lu dans le scénario.
Non,
aussi.
Mais Thierry, vous lui donnez aussi une âme. Et c'est vrai que en tant que spectateur, Thierry, c'est cet homme qu'on a déjà croisé, nous aussi, dans des piscines ou dans plein de lieux, qu'on regarde à peine et que vous campez merveilleusement bien. Qui fait
parce que je suis Thierry aussi.
C'est votre personnage, en fait.
J'ai trouvé Thierry en moi assez facilement, d'ailleurs.
Vous êtes romantique.
Allons-y pour dire ça.
Ouais. Écoutez, Diane Filouda va nous faire un petit voyage vers le romantisme. Diane, vous nous emmenez au Petit Palais.
Oui, absolument. Je vais vous faire voyager dans le Paris romantique des années 1815-1848 avec cette reconstitution spectaculaire, il faut bien le dire, que propose actuellement le Petit Palais à Paris. C'est en effet très impressionnant. Comme mise en scène avec pas moins de 600 objets d'art, mobilier, peinture, dessin également. Vous qui aimez le dessin, qui dessinait et j'en passe. C'est
vous
le
avez
Paris.
Vu l'exposition d'ailleurs, Philippe Catherine ?
Celle-ci, non.
Non, non. Vous allez avoir envie d'y aller.
Oui, absolument. C'est donc le Paris d'avant Haussmann. On se promène comme si on y était dans les hauts lieux de ce Paris romantique qui a suivi la chute de Napoléon. Alors ça commence le matin avec le Palais des Tuileries, ses appartements royaux, jusqu'au soir sur le boulevard du Crime avec tous ses théâtres. En passant par la vie de Bohème dans le Quartier Latin et bien sûr le Palais Royal, lieu de passage bouillonnant dans ce Paris-là, comme nous le confirme Christophe Leribaud, directeur du Petit Palais.
Après les appartements des Tuileries, on débouche au Palais Royal, qui est un endroit qui subsiste toujours, mais qui est plutôt un havre de calme, hein, et ce jardin entouré de colonnes. Mais à l'époque, il faut imaginer une grande galerie commerçante, une partie était couverte de voûtes métalliques, et c'est là qu'il y avait toutes les boutiques de mode, d'objets raffinés. Il y avait aussi les grands restaurants, les maisons de jeux, même un peu de prostitution. C'était vraiment un haut lieu de l'époque où les modes se faisaient et se désaient.
Et alors ce qui est fabuleux, ce Palais Royal de l'époque est reconstitué là, au Petit Palais, avec toutes ces vitrines remplies de porcelaine de Paris, cristal, bijoux, chapeaux, éventail. Il y a ses robes et ses vêtements de dandy. Il y a par exemple les bretelles de Balzac et sa canne. Balzac, comme d'autres, était très dépensier dans ce Paris effervescent.
C'est vraiment une période entre 1815 et 1848, à la chute de Napoléon, où cette capitale vaincue aurait pu être assez morne. Il y a une explosion de créativité grâce à tous les artistes, aussi bien les génies locaux, c'est Victor Hugo, Berlioz ou Delacroix, mais aussi la convergence d'énormément de créateurs étrangers. Ça peut être Rossini ou Chopin, mais aussi beaucoup de clients, de collectionneurs, de gens qui veulent goûter une certaine liberté de vie et de création à Paris.
Et cette liberté, c'est celle aussi des artistes.
Oui,
c'est ça qui ressort. Avec
Delacroix, en effet, Ingres, Géricault et d'autres qui exposent au Louvre une fois par an. C'est un peu la fiac des temps romantiques. Alors, on a là justement exposé une centaine de peintures et sculptures de ces grands noms dans la même salle. Et puis, on fait un saut ensuite à Notre-Dame, évidemment, sur l'île de la Cité.
L'île de la Cité, cœur de la ville, est remis à la mode, évidemment, par le grand roman de Victor Hugo, qui a certes une héroïne, Esmeralda, dont on a plusieurs représentations par des peintres de l'époque, mais surtout qui prend comme sujet un grand monument, un petit peu délaissé des Parisiens, et le remet véritablement dans leur cœur. C'est ce qui va générer le grand projet de restauration du bâtiment et aboutir, grâce à Viollet-le-Duc, à la reconstitution de cette flèche extraordinaire qui est presque le chef-d'œuvre de l'architecture romantique.
Puis on arrive place de la Bastille, la colonne de Juillet, le fameux génie de la Bastille, dont on a ici un très beau plâtre et qui célèbre la révolution de 1830. C'est aussi l'année 1830 de la création symphonique de Berlioz, dont on peut écouter des extraits. Alors vous avez même le manuscrit de cette partition de Berlioz, et également le manuscrit original, ça c'est quand même très impressionnant, de l'éducation sentimentale de Flaubert. Et cerise sur le gâteau, on a des concerts aussi de temps en temps sur un piano de l'époque. Écoutez, c'est très beau, c'est évidemment, c'est Chopin.
Merci Diane de nous avoir fait ce voyage au son des mazurkas de Chopin. Vous avez envie d'aller la voir, l'exposition La Fille Catherine, on l'a choisi pour vous.
Je ne pense plus qu'à ça depuis deux minutes.
Vous dites souvent, j'aurais aimé vivre dans les années 1860 ou dans les années 2060. Vous dites, je ne suis pas forcément de mon époque, et pourtant vous incarnez d'une certaine manière notre époque. Comment vous faites pour être aussi décalé et autant dans notre époque?
Oh bah, je ne me pose pas la question.
Vous êtes comme vous êtes?
Oui, c'est ça. Je suis né en 68. J'ai traversé tout ça sans me poser la question. Mais c'est vrai
mais
que...
Mais vous adorez observer votre époque. Vous dites souvent, j'aime bien manger tout seul au restaurant, regarder les gens. Vous êtes un...
J'adore observer les gens. J'en ai fait même une chanson, regarder danser les gens.
Mais ah bon, vous êtes sûr?
Oh là.
J'adore.
Ah, il est fort.
Regardez danser les gens.
Alors vous adorez les regarder danser, vous adorez les observer, vous adorez les dessiner, les peindre.
Oui. C'est drôle de regarder les gens, par exemple, circuler et de les imaginer justement dans le Paris d'avant Haussmann. Au fond, rien ne change. Les visages auraient été les mêmes. C'est tout le décorum autour, la coiffure, les vêtements. Et
oui, c'est vrai, mais finalement, il y a le même bouillonnement.
Mais sinon, on reconnaît, on imagine que les mêmes gestes étaient là déjà dans le Paris d'avant Haussmann ou bien avant. Enfin, ce sont les mêmes gestes. Bon, sauf qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de coups de plié quand on dans les rues.
Oui,
l'articulation du coude droit est très sollicitée.
Et c'est
en
pas
ce
à cause du verre qu'on boit au bar du luxe.
C'est pas à cause du jaja.
C'est plutôt à cause du robot. Vous l'avez compris, c'est notre page culture. Nous sommes avec Philippe Catherine qui est à l'affiche de ce beau film Yves qui sort. Et ben, au foot, il y a deux mi-temps. Ici, il y en aura trois. On retrouve Philippe Catherine dans un instant.
19h50, la suite et fin de votre grand journal du soir sur Europe 1. François Clos.
La page culture, et nous sommes avec Philippe Catherine à l'affiche du film de Benoît Forgeard, Yves, où il partage l'affiche avec William Lebguil, Doria Tillier et Alka Balbir. Un film, une comédie folle, sympathique et qui nous renvoie une image de notre époque qu'on évoquait à l'instant avec Philippe Catherine, notre invité aujourd'hui. Vous revendiquez vos origines, vos attaches, vous les avez même chantées au moment où cette équipe de foot improbable s'est retrouvée à la une de l'actualité.
Je lève mon verre à tous les petits gars des herbiers, que ni l'or ni l'argent n'ont caressé. Les Vendéens sont pas si fous, partiront pas sans boire. Je lève mon verre à tous ces peuples.
Moment inoubliable que cette équipe des herbiers qui se retrouve face au grand PSG Qatari en finale de la Coupe de France 2018. Philippe Catherine, c'est les herbiers, c'est chez vous.
Oui, c'était il y a un an,
peut-être
un peu plus. Mais c'est le bocage vendéen où j'ai grandi dans ce paysage, très maternel, parce qu'on s'y sent comme dans le ventre d'une maman. Hein. Souvenez-vous.
Oui, je vais essayer.
Donc je vois que...
Que ça me parle.
Oui. Oui.
Vous dites très souvent, tous mes grands arrière-grands-parents étaient tous des chouans, ils ont tous mené des guerres.
Surtout, bah, c'est cité dans cette chanson qu'on vient d'entendre, qui était pour encourager le club. Et donc, je cite effectivement le peuple massacré. Bon, surtout, c'était pour impressionner l'adversaire. Hein. le côté sanguinolent, bien sûr. Et ça a marché parce qu'on est allé en finale. C'était contre Chambly, ça. C'était une chanson pour la demi-finale.
Ouais, vous avez battu Francis Lalanne, qui était de Chambly.
La même occasion.
Par la même occasion. Alors, on aurait pu vous évoquer avec Vanessa, qui nous fait voyager tous les week-ends, comment aller manger des bons haricots blancs. Comment on appelle les bons haricots blancs de Vendée?
Les mogettes,
qui sont une spécialité. Aller faire une balade peut-être sur des canaux, aller à Noirmoutier, Mais Vanessa a une autre idée, elle va vous transporter vers une autre région qui vous est chère, Vanessa.
Elle vous est chère, c'est le Festival d'Avignon. Je sais que vous avez un lien particulier avec Avignon, vous y êtes retournée l'année dernière. Oui. Alors c'était pas sanguinolent, on a chanté l'amour, vous avez chanté l'amour, on va vous réécouter, c'était dans la cour du Palais des Papes.
Notre amour est chose légère, comme les parfums que le vent prend aussi.
Alors cette année au Festival d'Avignon, ce sera le thème du voyage au sens propre comme au sens figuré qui va emporter tous les festivaliers. Et en marge du festival, Avignon a d'autres voyages à vous proposer. Et il y en a un qui va vous plaire, je pense, Philippe Catherine. C'est un artiste engagé qui va nous faire explorer le monde à travers 400 œuvres. Elles vont être exposées dès le week-end prochain dans la chapelle du Palais des Papes. Il s'appelle Ernest Pignon. Ernest, je ne sais pas si vous le connaissez, mais je suis sûre, en fait, en voyant ces images, que ça va vous dire quelque chose. En fait, c'est le pape du street art. Ça fait 60 ans qu'il dessine au fusain des grands formats sur les murs des plus grandes villes du monde. En gros, c'est un peu le papa de JR, le photographe,
ah oui,
en quelque
très
sorte.
Connu, hein.
Mais il est très,
il
très
est hyper connu.
Donc
ouais,
voilà,
ouais.
Donc peut-être qu'un jour, vous aussi, vous dessinerez comme ça sur des grands murs. Ça vous tenterait?
Ben pourquoi pas, l'espace, c'est toujours bon à prendre un peu d'espace.
Les murs d'Avignon, Vanessa, qui réservent toujours d'ailleurs de belles surprises.
Ben oui, avec les trompe-l'œil, il y en a une cinquantaine. Hein. Chacun représente un artiste qui a fait briller le Festival d'Avignon, des Gérard Philippe, des Michel Bouquet. Donc c'est un jeu de piste qu'on vous invite à faire un voyage dans la mémoire du Festival d'Avignon, qui, on le rappelle, date quand même de 1947, un des plus vieux festivals.
Et les rues d'Avignon, on peut les quitter pour aller dans cette magnifique région. Il y a un pic qui se dégage tout au fond.
Un pic qui se dégage, on y va forcément. On va faire l'ascension du Mont Ventoux. Et la nouveauté cette année, c'est que 12 parcours VTT tout niveau ont été aménagés et balisés au milieu de la nature. Au départ, de Bedouin, ça vous parle, un Sault, Beaumont, du Ventoux. Pour les moins endurants, il y a une belle flotte de VTT électriques. Donc moi, évidemment, je l'ai testé. Philippe, Catherine, vous êtes VTTiste ou vous êtes plutôt vélo électrique?
Non, je vais vous dire ce qu'il est. Attends, alors, je vais vous dire, avant qu'il réponde.
Si je
bon, il est fort.
Vous donner un conseil. Faites du Vélib la nuit sous ecstasy. La nuit à Paris.
Voilà, d'abord, quand on vous a dit que c'était un romantique, hein, vous avez compris.
Puis, on y est.
Donc, voilà, hein, c'est la réponse.
C'est vrai,
non,
ouais. c'est vrai, c'est un romantique.
Merci.
Un Vélib pour aller au Mont Ventoux. Et on finit. Comme vous êtes romantique, je vous ai trouvé un endroit caché. C'est le rooftop caché du Mont Ventoux. Et ça s'appelle l'hôtel Crillon-le-Brave. En fait, il a un charme dingue. Pourquoi? Parce que l'hôtel, c'est un village. On a gardé toutes les maisons du village et on a installé des chambres dans chacune de ces maisons. Et chacune porte le nom de l'ancien propriétaire. Donc, vous allez pouvoir dormir chez le curé, chez l'avocat, chez le peintre. Et il y a en plus toujours le boulodrome pour des bonnes petites parties de pétanque. Et on en prend plein la vue parce qu'on embrasse à 180 degrés le Mont Ventoux et toute la vallée. Et c'est très inspirant. Et là-bas, je suis sûre que vous aurez envie de dessiner.
Oui, et peut-être boire un bon vin du Ventoux parce qu'ils sont pas mal les vins du Mont Ventoux, non?
On peut faire un petit tour chez Patrick Chen. Vous savez qu'il a ouvert son domaine, son vignoble, le domaine de Dambrun. Allez-y.
Ce qui est formidable avec vous, Philippe Catherine, c'est qu'il y a eu Louxor, il y a eu le Grand Bain, et vous restez... Vous réussissez à résister à, ou ça vous a embêté ce succès? Parce qu'on vous imagine voulant rester discret, voulant... Là, tout le monde vous reconnaît maintenant, vous êtes star.
Je prends le métro.
Ouais.
Mais vous prenez
sans
pas
aucun
Vélib.
Problème. C'est pas moi qui conduis le métro. C'est pas un problème parce que les gens sont quand même très affectueux. Bon, des fois, c'est pas toujours le cas. Mais là, quand même, la plupart du temps, c'est quand même des grands sourires qui sont adressés. Et c'est vrai, quand t'as le moral en berne, ça fait du bien quelqu'un qui te voit et qui te dit « Ah !» et qui te sourit comme ça jusqu'aux deux oreilles, tu te dis, bah, j'ai bien fait de me lever ce matin.
C'est le mot de la fin et nous, on a bien fait de vous inviter ce soir. Merci pour ce bon moment passé avec vous, Philippe Catherine.
Ben, merci à vous.
Et
merci.
Puis surtout, donc, allez voir à partir de mercredi Yves, ça va beaucoup vous amuser. Il y a longtemps que je n'avais pas ri. La scène de l'Eurovision, je l'ai encore en tête, du concours de l'Eurovision au cinéma. Et bah, vous y verrez un excellent Philippe Catherine, le film de Benoît Forgeard. Merci à Diane Chelouda, merci à Vanessa Zaza et merci à Mathieu Charrier. À bientôt, Philippe Catherine.
Merci,
pour
toujours
une prochaine aventure.
Bien sûr, je suis là.
Vous serez toujours accueillis.
Europe 1.
Mon cher Lionel Rousseau, bonsoir.
Bonsoir François.
Ah, je suis ravi de vous passer la balle.
Pareillement, hein, pareillement.
Le sport.
Exactement, avec un joli programme. Vous savez, demain, évidemment, ce match très attendu, les huitièmes de finale de la Coupe du Monde féminine de football, la France contre le Brésil. On va vous donner toutes les clés avec nos experts et nos envoyés spéciaux dans quelques instants. Ce sera l'actualité football, mais on parlera aussi de l'un des grands événements sportifs du week-end avec le Grand Prix de France de Formule 1. C'est à suivre sur l'antenne d'Europe 1. Jusqu'à 23h.
Allez, les deux F ce soir, foot, Formule 1, avec Lionel Rousseau et ses experts. A tout de suite, Marlène, on se retrouve nous demain, 18h.
18h, 20h.
Avec un autre programme et plein de surprises.